main qui va tout droit sur le fruit des sacrements. Tous les fruits des sacrements vont porter leurs fruits parce que notre liberté va leur faire produire leur surabondance, non seulement temporelle, mais aussi éternelle et glorieuse. Ce sera à partir de notre liberté. Cette liberté, la liberté de se donner, de recevoir le don et de faire surabonder le don, la liberté du don, n'est pas la même chose que l'intelligence contemplative, n'est pas la même chose que le cœur qui permet de rentrer dans l'amour total et brûlé, dans l'amour d'un autre que nous, pour que cet amour se multiplie continuellement. Donc il y a donc trois grandes puissances, je vous rappelle toujours, trois grandes capacités qui sont en nous, de vie spirituelle. La memoria dei est la première capacité de vie spirituelle de l'homme, celle à l'intérieur de laquelle vont pouvoir foisonner les deux autres capacités spirituelles, qui sont la lumière, qui relève de la lumière et qui relève de l'amour. Avant de pouvoir, pour une fois, être totalement libre dans la puissance spirituelle de vie contemplative et totalement libre dans la puissance spirituelle de l'amour, il faut quelquefois beaucoup de temps. Il y en a qui mettent 50, 60 ans quelquefois, avant de commencer. Et c'est sûr, c'est un peu vrai. Et qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, c'est inscrit dans la nature humaine déchue. La nature humaine, il n'y a pas que des anges qui ont été déchus. La nature humaine, il ne faut pas l'oublier, notre nature humaine est une nature déchue. Ah, c'est quand même très sympa de savoir ça, parce que ça nous met une certaine connaturalité avec les anges déchus. Ce n'est pas parce qu'on a une certaine connaturalité avec les anges déchus qu'il faut faire alliance avec eux. C'est précisément parce qu'il y a cette déchéance que du coup, il faut rentrer dans une déchéance d'une nature encore plus profondément déchue, puisqu'elle s'est laissée rentrer dans une déchéance jusque dans sa liberté, dans l'ordre du don. C'est la nature déchue du Christ sur la croix. De toute façon, ça... Le Verbe de Dieu a pris chair pour rentrer dans ce qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire la déchéance jusqu'à la descente donc aux enfers. C'est quand même extraordinaire de comprendre que la déchéance, nous avons une nature déchue. Bien sûr, on a une tendance à faire alliance avec la spiritualité déchue du monde angélique. C'est pour ça que la tentation, elle nous est quasiment connaturelle, hein. Mais si on va aller jusqu'au bout de notre pauvreté, alors on descend dans la pauvreté substantielle de Jésus. Seule la mémoire de Dieu, l'origine, la nature humaine originelle de l'homme, de Jésus en particulier, la nôtre aussi, c'est une capacité sans limite. Une capacité à recevoir le don de Dieu sans limite, à pouvoir accueillir ce don jusque avec l'acquiescement du oui sans limite, sans, il n'y a aucune limite à l'acceptation du don. C'est ça la puissance, on a une très grande puissance, on a aussi une capacité à faire rebondir ce don et le faire surabonder partout où on veut. La liberté spirituelle de l'homme à travers son corps originel est quelque chose de prodigieux. Et quand donc Jésus veut recevoir le don d'une vie nouvelle pour tous les hommes, et bien c'est dans sa mémoire qu'il réalise l'Eucharistie, les sacrements, le sacrement de mariage, le sacrement de confirmation et tous les sacrements. Et c'est pour ça que quelque part, on est, c'est vrai, et je suis tout à fait d'accord avec vous, on n'entend pas beaucoup parler de cette puissance de vie spirituelle, hein. On entend parler beaucoup de la foi et de la charité. Quand vous faites, vous allez dans des sermons ou des conférences, c'est pas de vie spirituelle, d'initiation à la vie mystique ou à la vie spirituelle ou même en métaphysique, hein. Bon, vous entendez dire, parler de charité, vous entendez parler de la foi, de l'adoration à la rigueur, mais de l'espérance, pas tellement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une espèce de d'oubli de la mémoire de Dieu, un espèce d'oubli d'union hypostatique, originelle, un oubli. On est obligé d'y revenir parce que l'Église a eu un sursaut de dernière minute, si je puis dire, en proclamant le dogme de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est la memoria Dei, la plénitude reçue dans la créature parfaite, hein, issue de la memoria Dei de Jésus immolé. C'est son union hypostatique qui est déchirée. Alors, cette mémoire, il faut. C'est un petit peu enfin, le souci que j'ai avec vous, c'est d'essayer de faire revenir à la surface le corps originel. Oui, faire revenir à la surface le corps originel. Il ne faut pas le faire par régression métapsychique, par les énergies, vous savez, hein, on descend. On fait une régression, on s'imagine comment on était quand on n'était qu'une seule cellule, 9 mois avant la naissance. Ça, si on fait imaginativement et qu'on essaie de revenir dans cet état, voyez ce que je veux dire, on pourrait faire plein d'exercices comme ça. On appelle ça des exercices de régression. Mais un exercice de régression n'est pas un exercice spirituel, c'est un exercice de fréquence, c'est un exercice métapsychique, c'est un exercice de rayonnement, essayer de retrouver l'ambiance. Et dans l'ambiance, je redresse et j'essaye de redresser dans un temps qui n'est plus le temps d'aujourd'hui. La memoria Dei, c'est ça son avantage, cette puissance de oui, à l'état pur, à l'état d'innocence, à l'état intégral, demeure dans l'état adulte. On n'a pas besoin de faire une régression. Et la reprise en main du corps originel se fait dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, dans l'instant d'aujourd'hui, avec mon corps adulte. Pourquoi? Parce que le corps, lui, eh ben, il a grandi. Il a grandi. Et du point de vue du récepteur de la memoria Dei, il s'est multiplié. C'est un peu comme l'Eucharistie, si vous voulez. Vous pouvez avoir la présence eucharistique de Jésus hostie dans des millions et des millions et des millions de tabernacles partout sur la terre. Et pourtant, quand vous voyez hostie, Jésus hostie dans la consécration, eh bien, en fait, il n'y a qu'une seule hostie, celle qui est partout dans tous les tabernacles. C'est la même. Il n'y a qu'une seule hostie. Pourquoi? Parce que quand vous voyez une hostie, vous voyez quoi? Vous ne voyez pas l'hostie. Vous voyez la transsubstantiation, vous voyez le est, l'existence. Vous rentrez à travers l'hostie, dans l'hostie, et vous rentrez dans la transsubstantiation de Jésus hostie. Et c'est en l'intérieur du est, de la transsubstantiation, de la substance de Jésus hostie, vous touchez toutes les hosties qui sont partout dans tous les tabernacles du monde. Vous le touchez directement. Lorsque l'hostie touche votre langue, si vous faites un acte de foi, vous pénétrez à l'intérieur de la transsubstantiation, vous touchez physiquement toutes les hosties qui sont dans tous les tabernacles du monde. Vous saviez ça? Vous touchez directement, sans aucun intermédiaire, par la transsubstantiation. Donc vous êtes présent à toutes, vous êtes présent à l'unique transsubstantiation du sacrement. La reste du sacrement, eh bien, c'est pareil pour la mémoire de Dieu. Vous voyez, je prends cet exemple parce que là, vous avez l'habitude pour Jésus hostie, bien sûr. Dès que vous êtes dans l'hostie, dès que vous êtes dans l'Eucharistie, vous êtes immédiatement présent, physiquement, sans aucun intermédiaire, à toutes les hosties de tous les tabernacles du monde. C'est comme quand vous assistez à une messe. Vous avez remarqué, j'espère. Quand vous assistez à la messe, sacrifice de la messe, vous avez constaté. Aussitôt que vous êtes à l'intérieur, substantiellement, mystiquement, surnaturellement, entièrement englouti au cœur même de ce qui se passe dans le sacrifice eucharistique, dans l'offrande victimale de Jésus, du sacrifice de Jésus. Vous dites sacrifice de Jésus, on dit sacrifice de Jésus en français, et en latin, on dit hostia Christi. Hein? Le sacrifice de Jésus, c'est la traduction de hostia, de hostie. Hostie, c'est sacrifice. Hostie, c'est pas un bout de pain. Hein? Hostie, c'est sacrifice. Et la substance du sacrifice, vous assistez à la messe, vous êtes au cœur, au milieu d'espèces de foyer ardent du sacrifice. De substantiel de la personne dans le Christ Jésus, ben, automatiquement, si vous êtes dedans, vous ne pouvez pas ne pas voir qu'il y a des torrents de lumière qui dépassent tout et que vous êtes immédiatement en contact immédiat, sans aucun intermédiaire, avec toutes les messes qui se disent dans le monde aujourd'hui. Vous avez remarqué ça? Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Donc dans l'aujourd'hui, on a un contact direct. Toutes les messes qui disent celles que dit le pape Benoît XVI, celles que disent les évêques, celles que disent les 600, 700 000 prêtres aujourd'hui. Toutes les messes. Vous êtes présent immédiatement dans un foyer ardent et vous êtes au cœur et dans la présence immédiate de toutes les messes. Ça fait en fait une seule messe. Ça fait une seule hostie, ça fait un seul sacrifice. Ça, c'est la foi catholique qui fait ça. Le sacrement est d'une très grande puissance. Pareil pour la puissance de vie spirituelle, qui est la memoria Dei. La memoria Dei, une fois que vous prenez en main votre corps originel actuel, il est présent dans toutes les cellules de votre corps. Il y a 5 à 7 000 milliards de cellules dans votre corps. Chacune de ces cellules a un tabernacle. Ce tabernacle est le tabernacle, le lieu sacré dans votre corps, le Saint des Saints, où Dieu est présent et rend actuelle votre existence spirituelle dans le corps, et 7000 milliards de fois. Il suffit que vous rentriez dans un minuscule, vous êtes dans les 7000 milliards, mais vous êtes en même temps dans votre memoria Dei d'origine. Il n'y en a qu'une seule memoria Dei. Mais plus en plus, la memoria Dei, cette espèce de mémoire de Dieu qui fait que vous êtes vous-même. Et c'est extraordinaire de savoir qu'il faut être 7000 milliards de fois plus petit qu'une cellule. L'humilité, elle ne peut que grandir. Donc, autant le cœur est le lieu lorsqu'il est brûlé par le Saint-Esprit de la charité surnaturelle, autant l'intelligence, l'intellect, l'agent, lorsqu'il est illuminé par l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse, l'esprit de science, dans la lumière surnaturelle de la foi, il est complètement absorbé et assumé par le Verbe de Dieu, la lumière, la vérité éternelle et incréée, autant est le lieu donc de la foi, autant la memoria Dei, c'est le lieu de l'espérance. Le lieu de l'espérance, le lieu de la charité, c'est le cœur. Le lieu de la foi, c'est évidemment la lumière contemplative de notre intelligence. Et le lieu de l'espérance, c'est la petitesse de notre corps, habité par une capacité à recevoir, à dire oui jusqu'à la substance du don qui nous est fait, à faire surabonder partout. Des milliards de fois, vous voyez, c'est bien de dire des milliards de fois parce que c'est le chiffre exact. C'est une liberté, la liberté humaine, c'est une liberté fantastique, c'est une liberté extraordinaire, c'est une liberté savoureuse, c'est une liberté de tout petit, de ce qu'il y a de plus petit dans la création spirituelle, de Dieu. Dieu a créé et c'est ce qu'il y a de plus petit qui est le plus fécond dans la liberté. Cette fécondité dans la liberté, c'est le nid de l'espérance. Donc si vous voulez avoir le nid de l'espérance, vous touchez ce qu'il y a de substantiel dans votre humilité parfaite. Alors, quand vous êtes vous vous enfoncez dans ce qu'il y a de substantiel dans votre humilité parfaite actuellement, là, sous le souffle du Saint-Esprit, esprit de crainte de Dieu, et dans la cinquième demeure de l'union transformante, alors à ce moment-là, vous voyez que vous êtes tout à fait libre de recevoir la plénitude de la grâce reçue. Et vous faites l'acte d'espérance. L'espérance est donc liée à la paternité, à la fécondité paternelle de Dieu, parce que Dieu est la fécondité elle-même de Dieu en lui-même. La fécondité de Dieu, c'est le Père, c'est l'Époux. Et la vie de Dieu, Dieu vivant, c'est le Fils, c'est l'épouse. Et l'épouse, non seulement elle est la vie elle-même, et elle surabonde, elle est donation de vie, elle est fécondité de vie. Dieu est fécond de Dieu, voilà, c'est normal. Et du coup, il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour. Et donc, du côté du Père, c'est l'espérance, du côté de l'épouse, c'est la foi, du côté de l'amour, c'est le Saint-Esprit. Alors c'est pour ça qu'il faut réapprendre à dire ce oui. Ce oui, actuellement, ce oui de l'humilité substantielle qui est en nous. Parce que quand l'humilité substantielle est en nous, quand on rejoint en nous l'humilité substantielle, on rejoint du coup l'union hypostatique des esprits de Jésus, puisque tu ne peux pas faire plus humilité que Jésus dans l'hostie, plus humilité que Jésus dans le sacrifice. Le Verbe a pris chair de notre nature humaine pour aller le plus bas possible dans la déchéance. C'est pour ça que plus vous allez loin dans la déchéance du péché, plus vous êtes peut-être, entre guillemets, faites attention, il ne faut pas faire de la rhétorique, mais plus vous allez bas profondément dans le péché, plus vous allez loin dans la déchéance du péché, plus vous êtes proche de Jésus crucifié. Jésus n'est pas proche des pharisiens et des scribes. Il est proche de celui qui est dans la déchéance, dans la pauvreté. Il est brisé par Lucifer, il est brisé par le démon. Oui, c'est ça. Et on est, regardez, c'est quand même inouï, quoi. Hein. C'est quand même inouï. Regardez le péché originel. Regardez comme le tentateur, regardez comme le démon, la propagation du péché originel s'approche de nous. À ce moment où on est si petit. Mais moi, je dirais, moi, vous savez, je n'ai aucune admiration pour le démon. Hein. C'est aucune admiration. Il s'attaque aux petits. Il s'attaque à nous quand on est encore plus petit. Et plus on est petit, plus il vient. Il y a une rage. Il veut de toute façon y arriver. Il veut y arriver, quoi qu'il arrive, pour tous les âges, tous les lieux. Et il s'approche, vous voyez, c'est quand même, c'est. Alors, aspirer à une humilité, pas seulement une petite humilité, pas un peu d'humilité, mais aspirer par un miracle de la grâce du baptême et de la transformation intérieure du corps, de l'âme et de l'esprit, hein, aspirer à toucher en nous l'humilité substantielle. C'est la condition de l'espérance. Retrouver, vous voyez, ce oui du tout petit, sans l'Immaculée Conception, sans la toute petitesse substantielle de l'Immaculée Conception, cette capacité sans limite dans son néant à recevoir tout. Alors du coup, la supervenue du Saint-Esprit vient dans son humilité, l'embrassement du Père, et du coup il y a une telle, cette nuit est tellement accoisée, tellement substantielle, et elle se donne totalement dans l'amour et la lumière de la foi, que du coup, effectivement, tout se concentre, le Père se concentre, et ce qu'engendre le Père se concentre, et voilà pourquoi le Verbe s'incarne. Et c'est ça la Memoria Dei de Jésus. Jésus s'est fait humilité substantiellement, à cause de la foi de Marie. Et c'est ça la mystique de l'espérance. Si vous voulez, la foi, l'espérance et la charité sont liées à une communion, à ce qui est à l'intérieur, intégralement, de chacune des trois personnes de la très sainte Trinité. Hein? Donc quand vous êtes complètement dans l'intérieur, de l'intérieur du Verbe de Dieu, jusqu'à la plénitude, jusqu'à la substance, vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans le feu de la De l'unité du Père et du Fils qui font l'amour éternel de Dieu, qui est toujours renouvelé par l'unité du Père et du Fils, dans un amour toujours nouveau, éternellement, à chaque instant. Là, vous êtes, une fois que vous êtes à l'intérieur de cette personne-là, vous êtes dans le terme de la charité, avec votre cœur divin. Et si vous êtes dans l'humilité substantielle, vous introduisez dans cette humilité substantielle, vous êtes tout à fait au cœur du Saint des Saints, de l'intériorité, de l'omniprésence du Père qui se rend présent dans le Saint des Saints de la paternité, et vous êtes donc dans le Saint, vous êtes tout proche avec ces deux modalités de la présence paternelle de Dieu, vous êtes tout proche de l'intériorité, de ce qui est à l'intérieur. De l'intérieur, de la première personne, de la très sainte Trinité, dans toutes les fécondités, qui sont propres à Dieu, sont pour vous. Et c'est pour ça que la grâce sanctifiante est une plénitude de vie intérieure divine, c'est une participation à la vie intérieure du Père, mais elle est donnée en plénitude reçue. Alors si vous enfoncez dans cette plénitude reçue, et que vous rentrez dans la lumière, puis dans l'amour du Saint-Esprit, vous recevez la lumière de gloire par anticipation. Vous recevez, si vous voulez, la dernière disposition, un millième de seconde après, c'est la lumière gloriée. C'est la lumière de gloire. Voilà, un petit résumé donc du catéchisme sur la foi, l'espérance et la charité. Donc l'espérance, il faut faire des actes d'espérance. Ça s'apprend de faire des actes d'espérance. Les sacrements sont vraiment un endroit génial pour pouvoir rentrer dans la substance de l'humilité substantielle, dans la mémoire et dans la capacité de réception du don. Et comme il y a cette multiplication, vous avez bien compris, cette multiplication est la même dans la mémoria dei qui est notre puissance, le nid de notre puissance spirituelle humaine. Et c'est le même type de multiplication, si je puis dire. Mais ce n'est pas simplement une multiplication quantitative, c'est une multiplication aussi intensive. Et donc, elle est semblable, elle est analogue à la multiplication sacramentelle. C'est pour ça que je vous dis, quand vous assistez à la messe, vous le voyez bien, regardez, essayez de comprendre. Essayer de saisir, essayer de rentrer, essayer de voir, essayer d'expérimenter comment l'Immaculée Conception vit l'Eucharistie. C'est quand même... C'est très très fort. C'est très très fort avec son Immaculée Conception adulte, avec son Immaculée Conception aujourd'hui glorifiée dans la résurrection. Comment elle assiste à la messe d'aujourd'hui avec nous. Elle ne le fait plus avec la foi aujourd'hui, puisqu'elle est dans la vision béatifique. Mais elle est passée par la foi pour le faire. Est-ce que c'est compliqué ce que je vous dis là? Vous voyez, quand vous allez assister à la messe, si vous le faites avec le plus d'intériorité surnaturelle possible. Plus d'intériorité surnaturelle, parce qu'il va falloir que du coup, tout s'ouvre à l'intérieur de vous. Vous avez 7000 milliards d'ouvertures à faire. Votre corps originel doit s'ouvrir 7000 milliards de fois. Cette capacité sans limite dans chacun de ces tabernacles-là. Tout s'ouvre, votre cœur s'ouvre, votre intelligence s'ouvre, et tout en vous s'ouvre, votre âme s'ouvre, rien qui ne s'ouvre pas. Tout s'ouvre. Tout doit être complètement ouvert. Et cette ouverture, comme vous vous donnez avec cette ouverture-là à celui qui se donne, eh bien forcément dans l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas ne pas voir que le que Jésus, que le prêtre, que Jésus prêtre éternel, que le Verbe de Dieu, que le Fils de Dieu, que l'union hypostatique de Jésus vous envahit complètement au moment où il se déchire pour se donner au Père. Et c'est dans Il a remplacé, pour ainsi dire, votre âme. Vous voyez, il ne faut pas assister à la messe en disant, voilà, j'assiste à la messe, c'est, je crois que c'est Jésus crucifié qui est crucifié là, moi je suis là et il est là. Il ne faut pas faire comme ça. Ben, faut faire comme ça. Et puis j'attends qu'il vienne à moi et puis qu'il rentre avec moi dans l'hostie, par la communion. Attention, non, 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 nous célébrons la messe. L'encyclique de Benoît XVI sur la messe. Nous célébrons la messe. Alors c'est bien, on va à la messe, ça c'est la foi, très bien. Je crois, c'est très bien. Mais maintenant, je célèbre la messe, c'est-à-dire que c'est le sacerdoce. C'est-à-dire, si je suis à la messe, c'est que je suis médiateur surnaturellement de la messe. Je suis celui qui fait que la messe se célèbre. Je suis, nous sommes ensemble, le sacerdoce qui fait que... Et le sacerdoce, c'est qui ? Le sacerdoce, c'est Jésus. Le sacerdoce, c'est Jésus prêtre, assis à la droite de Dieu le Père. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans votre vie ces statues, il y en a très très peu, où on voit Jésus prêtre éternel. Ce n'est pas très difficile à sculpter, d'ailleurs. Mais j'en ai vu 3 ou 4 fois, c'est admirable. Jésus prêtre éternel. Il est assis à la droite du Père, donc ça veut dire assis, ça veut dire qu'il trône, il a son nid dans l'intériorité de l'intériorité du Père, et le Père engendre en lui un pouvoir sacerdotal, médiateur, total. Il peut donc se sacrifier à nouveau. S'immoler toujours. Et quand la fin du monde sera terminée, cette immolation sera glorieuse. Elle est déjà glorieuse. Dans le sacerdoce éternel du Christ. Mais en nous, c'est une immolation victimale pure. Quand c'est dans le temps de l'Église. Bon, ben, toujours est-il que quand vous célébrez la messe, il n'y a pas que le prêtre qui célèbre la messe. Nous sommes tous ensemble, royalement, indivisiblement, le prêtre qui célèbre la messe. Donc dans l'intérieur qui est en vous, dans votre intériorité, dans l'espace intérieur qui est en vous, c'est toute l'intériorité de Jésus qui s'immole en même temps que c'est sur l'autel, c'est en même temps dans tous les tabernacles ouverts intérieurs qui sont en vous, et donc vous laissez la place, vous laissez la place à toute la place, qui n'est rien d'autre que toute la place à Jésus qui vous envahit. En envahissant d'ailleurs tous ceux qui sont là en même temps, s'ils sont dans les mêmes dispositions que vous, ainsi que le prêtre. Et de sorte que nous faisons un seul corps, et du coup, dans cet corps unique, dans l'intériorité, c'est Jésus prêtre qui s'offre en immolation. Cette victime, ce sacrifice pur qui fait votre stigmatisation, ça marque de l'intérieur de votre corps. Ça marque de l'intérieur de toutes les cellules de vos génomes. Ça les marque de l'intérieur, comme une marque, un sceau. C'est ça la stigmatisation profondément. Et du coup, voilà, quand vous célébrez la messe, Jésus prêtre à travers vous transubstancie son sacrifice victimal. Et comme il le fait avec vous, eh bien, vous êtes le récepteur, du coup, de tous ceux qui sont dans la gloire de la résurrection, qui viennent, du coup, à travers vous, en vous, assister, eux, à la messe. Et ça donne donc une réceptivité dans le ciel et dans la terre à ce sacrifice nouveau, une amplitude nouvelle à l'immolation et au sacrifice de Jésus crucifié. Et en même temps, ça vous met dans un contact intérieur, dans votre âme, c'est concret l'âme, hein. C'est pas éthérique une âme, hein. C'est très concret, hein, une âme, c'est la lumière qui est à l'intérieur de votre intérieur, donc vous pouvez pas, c'est fabriqué avec de la lumière une âme, hein. Donc l'âme est la forme substantielle du corps, donc c'est très concret une âme, hein. Et bien grâce à ça, parce qu'à cette présence là, quand vous célébrez la messe, vous êtes en contact direct, substantiel, corporel, immédiat avec toutes les messes qui existent aujourd'hui dans le monde. Et on ne peut pas ne pas le voir. Vous imaginez bien que c'est pas de la sorcellerie quand même la messe. C'est pas de la magie blanche. La messe est une liberté de Dieu, c'est une liberté de Christ de tout recréer, c'est une liberté des enfants de Dieu d'être dans l'unité, l'indivisible, l'unité avec lui, dans son sacrifice. Alors à ce moment-là, vous voyez, on ne pouvait pas le voir, de l'intérieur on le voit qu'on est à l'intérieur, de l'intérieur du pape qui dit la messe, de tous les évêques, des 600 000 prêtres qui la disent en même temps, et tout ça en même temps, Marie, vous croyez qu'elle ne faisait pas comme ça? Parce que si vous vous faites comme ça, Marie ne le faisait peut-être pas. Elle faisait moins que vous, peut-être. Pourquoi? Parce que vous êtes plus avancé que l'Immaculée Conception, peut-être, dans la foi. Bien sûr que Marie, elle faisait ça. Et une fois qu'elle était là, dans la transverbération de son cœur, elle avait donc cette capacité de passer de cette immolation du sacrifice, du Golgotha, de l'union hypostatique de Jésus. Quand elle communie à la messe, il était déjà ressuscité, Jésus. À l'accomplissement de tous les temps, de royaume accompli, Jésus ressuscité. Et donc, avec la transverbération, elle était capable d'assister physiquement, je dis bien physiquement, avec son corps terrestre, quand elle n'était pas encore relée au ciel, non seulement à toutes les messes qui se disaient à ce moment-là, aujourd'hui, de son aujourd'hui, mais aussi à toutes les messes. Et donc, elle a traversé l'immolation du Christ à travers sa foi et elle a permis à habiter personnellement, lucidement et librement tous les sacrifices eucharistiques de tous les temps jusqu'à celle des noces de l'agneau. Elle est la mère de l'Eucharistie. L'Église, c'est la mère de l'Eucharistie. Elle a engendré la présence réelle, substantielle et eucharistique dans tous les temps et tous les lieux. Elle est la mère de l'Eucharistie. Ben, quand vous célébrez la messe, vous ne pouvez pas ne pas vous unir à Marie pour avec elle traverser toutes les messes, de tous les temps, tous les lieux, jusqu'à l'accomplissement du royaume, et à ce moment-là, vous êtes avec l'accomplissement du royaume, et dans le sacrifice, vous revenez avec l'accomplissement du royaume pour qu'il se répande dans l'accomplissement, dans tous les lieux, dans tous les temps, dans toutes les natures humaines, dans tous les hommes, quels qu'ils soient, chassant, les délivrant et de toutes les entraves qui empêchent de s'envoler à l'intérieur de la vision béatifique, de l'appel, de la miséricorde de Dieu. Mystiquement, il faut vivre de la messe, hein. Il faut vivre surnaturellement de la messe. Voilà ce que dit l'encyclique du pape Benoît XVI. 1. Il faut avoir la foi, bien sûr. 2. Il faut célébrer. 3. Il faut avoir faut rentrer dans la fécondité universelle, catholique, de tous les temps, tous les lieux, fruit du sacrement de l'Eucharistie. Il faut avoir cette charité, il faut avoir cet amour, il faut avoir cette fécondité, il faut avoir cette liberté. Ça, le pape précédent, il n'avait pas dit ça aussi clairement. Pape Benoît XVI, oui. C'est quelqu'un, pape Benoît XVI, vous savez. Un jour, j'ai rencontré une mystique, et c'était une stigmatisée, mais que j'aime bien, attention. Hein. Elle m'a dit, oh, ce pape-ci, je préfère encore Jean-Paul II quand même, parce que celui-ci, j'ai un petit peu de mal. Qu'est-ce que je l'ai engueulé? Je dis, moi, c'est exactement le contraire. Enfin, c'est pas exactement le contraire. Moi, j'aimais bien Jean-Paul II. J'aimais beaucoup Jean-Paul II. Mais je vous assure que quand nous célébrons la messe avec Benoît XVI, ça va très très loin. Ça va très très loin. Surnaturellement, ça va très loin. c'est un témoignage de Dieu. Hein. Donc il faut utiliser toutes nos puissances. Mais les puissances de multiplication, de fécondité, d'universalité sont liées au oui originel de notre liberté dans l'ordre du don. Donc c'est essentiel que nous puissions prendre possession et que nous ayons pleine maîtrise de cette liberté originelle, de notre corps originel actuel. Donc il est très important que nous prenions pleine possession de cette liberté originelle, de notre oui originel, dans notre corps originel, répété, dans notre corps originel actuel. Dans notre corps originel actuel, pas dans notre corps originel ancien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Vous n'avez peut-être pas compris quelque chose là? Vous n'avez pas suivi? Bon, et c'est pour ça qu'on fait ce fameux PPP 3 qui est vraiment la remise en route de notre humilité substantielle par miracle de l'intervention surnaturelle de Jésus en nous, une rédemption, un monde nouveau se crée, notre liberté originelle revient à la surface. Pourquoi est-ce que notre liberté dans l'ordre du don ne revient pas à la surface? À cause des transgressions. Il y a la transgression du péché originel et la transgression du méchaume. Hein. C'est à cause de ça hein, que la liberté dans l'ordre du don est complètement paralysée, brisée, et sourde. Comment est-ce que vous appelez ça? Paralysée, c'est ça, sourde, muette et inhibée. Inhibition. Il y a une glaciation de la liberté originelle avec les transgressions. Le péché originel fait ça. Regardez, depuis le péché originel, notre liberté, notre oui originel, l'espérance, c'est là où le démon attaque le plus fort. Parce que plus on s'approche de la fin, plus il faut briser l'espérance. Si vous êtes dans une vie humaine déjà, une vie humaine, ce qui fait que vous n'avez pas l'espérance, je veux dire la grâce, la persévérance finale, c'est parce que l'espérance est brisée. Le démon attaque toujours sur l'espérance, sur la fin. Et l'Église, elle est la fin. Elle arrive à la fin. C'est pas un secret pour vous, je suppose, savoir que l'Église arrive à la fin. Et donc le démon, il attaque, si coûte si, mais je même, sur la mémoire originelle, sur le Saint des Saints, sur la paternité, sur l'humilité substantielle de l'homme. De la femme et de l'enfant. Regardez, c'est clair, net, comme de l'eau de roche, ça. Même dans les textes liturgiques, on ne voit plus le mot espérance, ils ont mis espoir à chaque fois à la place. Espoir, c'est une des 11 passions sensitives de l'âme, qu'on en partage avec les animaux. Donc, dès que vous voyez un psaume, vous voyez espoir, ne dites jamais espoir, dites espérance. C'est important, c'est important. Je vous rappelle le catéchisme qui apprenait aux enfants. Acte d'espérance, mon Dieu, j'espère avec une totale confiance que vous me donnez en cet instant, dans les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, toute grâce en ce monde. Et le bonheur éternel de l'autre. Dans ces, il y a les 6 moments de l'acte d'espérance. C'est comme pour la foi, il y a différents moments hein, pour pénétrer dans le Père. Dans l'intériorité, personne du Père, là où il donne toute la vie intérieure divine de Dieu. La grâce, c'est la vie divine qui vivifie l'intériorité vivante de Dieu. Et la grâce, c'est cette vie divine de l'intériorité vivante de Dieu vient pénétrer, irriguer et vivifier l'intériorité vivante de notre vie, comme le vin se mélange à l'eau, comme un parfum se répand dans une pièce. Notre âme, c'est comme l'air, le parfum, c'est comme la grâce. Voilà, un phénomène d'entropie. Alors, donc on se met dans un état de disponibilité intérieure où il n'y a plus aucun orgueil, l'humilité substantielle, la pauvreté totale, l'esprit de pauvreté, on est dépouillé de tout, on ne s'accroche à rien. On ne revendique rien. Ouais, c'est exactement le contraire de la cristallisation, du déplacement, de la justification, de la somatisation, etc. Bon. De l'idée fixe et compagnie. Hein. Donc c'est exactement le contraire. On se dépouille de tout, on est libre de tout, on n'a rien. On est dans l'humilité, on est dans la disponibilité, comme dans le premier instant de notre vie, la vie d'un petit embryon, il dit oui, il est disponible, il dit oui à tout ce qui vient de Dieu. C'est ce oui à tout ce qui vient de Dieu dans son intériorité, qui fait son intériorité. Et si le monde aujourd'hui est sauvé, c'est parce qu'il y a tout le temps des embryons. Parce que le oui demeure toujours, pendant une quinzaine de jours. Sinon, s'il fallait compter sur la sagesse déchue du christianisme, je crois que le monde aurait terminé son parcours depuis longtemps. Mais il faut retrouver donc désormais ce oui. Il faut retrouver ce oui dans notre état. Dites, voilà ce que le bon Dieu nous demande. Hein? C'est pas compliqué. Alors, utilisez les mots. Je reprends en main, maîtrise de soi. Je reprends en main mon corps originel dans son oui originel, sa liberté du don, dans mon corps originel actuel. Puisque ce oui à l'état pur de l'humilité substantielle est toujours là. Jamais le bon Dieu n'a arraché une des trois puissances de notre âme à notre vie spirituelle, à notre âme spirituelle. Le Seigneur a dit, ah bon, il a fait le péché originel, allez, je prends, j'arrache une des trois puissances de l'âme. Ça, je vais te punir, hein, tu vois, tu imagines, hein. Là, tes parents, tu vois, tu vois ça, quoi, tes parents, tu fais une bêtise, bon, ben, je t'arrache la tête. Ça ne peut pas aller. En tout cas, le bon Dieu, il ne fait pas ça. Dieu, non, la puissance de vie spirituelle, c'est nous, on en fait ce qu'on veut. On est libre. C'est vrai qu'on ne se rappelle plus à quel point on était libre, lucide, et complaisant dans le fait qu'on ait dit, allez, non, je ne veux plus avoir cette liberté-là. Je veux avoir une autre liberté, une liberté artistique, une liberté capricieuse, une liberté sentimentale, une liberté de ce que vous voulez, une liberté du mal. Mais la liberté du don, la liberté spirituelle, on l'a fini par l'oublier. Donc c'est essentiel aujourd'hui, au jour de l'Immaculée Conception, de retrouver notre corps originel actuel. Des myriades de fois. Oui, je le dis. Seigneur, je reprends possession de la puissante libération de l'introduction en moi de l'Immaculée Conception, dans ma chair. Je reprends possession de mon oui originel actuel. Et dans l'au-delà de l'unité des deux, je reçois l'union hypostatique des séries originelles et actuelles de Jésus immolé. Cette petite formule que je viens de vous dire, vous la répétez comme ça une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois. À la 30e fois, vous avez à peu près ce que vivait Saint Joseph. Vous vivez à peu près ce que vivait Dieu le Père dans la chair substantiellement agitée de Saint-Joseph au oui originel de Jésus de Marie. Et du coup, vous pouvez commencer à rentrer de l'horizon de quiétude à l'horizon de la cinquième demeure, à la transformation qui fait que, effectivement, le Père recrée en vous, à l'état adulte, ce oui originel actuel, mais de manière surnaturelle. Voilà, c'est vrai, c'est.
Je reprends.
Qu'est-ce qu'il a noté?
Je reprends, vous voulez pas
le
dire
vraiment? Je reprends en main mon corps originel actuel. Tout s'ouvre, voyez, je suis dans la plus petite et substantielle de mon humilité actuelle. Je m'accroche à rien de la terre, à rien de ce qui est à moi, rien. La pauvreté. Je renonce à tous mes droits. Aucune revendication. Ouais. Il faut l'esprit de pauvreté pour ça. Jésus aurait eu le droit d'être respecté quand même, il n'avait rien fait de mal. Hein. Il a renoncé à tous ses droits, dès le premier instant. Il s'est incarné pour rentrer dans la plus grande déchéance et une humilité la plus substantielle qui soit. Donc je reprends en main mon corps originel actuel, tandis qu'il est envahi de l'intérieur par celui de l'Immaculée Conception, pour que dans l'au-delà de l'unité des deux, je puisse recevoir le oui originel de l'union hypostatique de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'immole en assumant la nature humaine. Je le dis une deuxième fois, je le dis une troisième fois, je le dis 30 fois, et au bout de 30 fois, j'ai le climat de la liberté originelle de Saint Joseph, le jour où il se marie avec l'Immaculée Conception. Et ça m'explique d'ailleurs après, quand les 30 ans de la vie avec la Sainte Famille, pourquoi il est entièrement habité par l'immolation de tous les temps, de tous les lieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il en meurt. Si bien que l'immolation de notre Seigneur Jésus-Christ habite sa chair, son corps originel, l'harmonie de son corps originel et son corps spirituel venu d'en haut, et du coup, quand son âme se sépare, son corps est déchiré dans la stigmatisation du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, et il descend comme ça dans les enfers. C'est comme ça que l'immolation réelle, substantiellement réelle, directement dans le monde physique de son âme à lui, de Père, est rentrée dans le monde de la mort pour la première fois. Et 1290 jours après, Jésus est crucifié. C'est pour ça que Saint Joseph est ressuscité avant Marie. Hein. Parce que Marie n'avait pas cette chance. Marie n'a pas eu, enfin, si, elle a eu d'autres. Elle a eu d'autres privilèges, la Sainte Vierge. Ne vous inquiétez pas pour elle. Vous voyez, l'espérance, l'humilité, la paternité, c'est vrai, c'est beaucoup plus... c'est ça que la Sainte Vierge a expliqué à Bernadette, hein, dans l'oraison. Regardez, si du coup, votre capacité physique, personnelle, est la même de ce qu'il y a au-delà de l'unité des deux, de celle qui est avec la créature parfaite, et puis de l'immolation de Christ, que c'est inouï ce qui se passe. Là, ici, ça y est, vous êtes présent à toute la création et vous redevenez le petit roi fraternel de l'univers dans l'état adulte. Alors, vous pouvez prendre autorité sur les événements, vous pouvez prendre autorité sur le mal, vous pouvez prendre autorité. Vous êtes libre. Vous pouvez régner librement avec le royaume Christ. La royauté, vous voyez, l'autorité est liée à la paternité, donc c'est lié à l'espérance. Mais avec, c'est pour ça que c'est important de reprendre conscience, reprendre en main cette puissance spirituelle. Elle fait partie de la nature humaine. Tous les hommes ont cette puissance spirituelle. Alors bien sûr, surnaturellement, avec Jésus, avec Marie, avec la grâce de l'Église, avec la grâce de la Jérusalem céleste, avec la grâce du règne du Sacré-Cœur, avec la grâce surnaturelle à l'état pur dans la plénitude reçue, oui, bien sûr, à ce moment-là, la puissance de vie spirituelle rentre dans quelque chose, une humilité qui est complètement infuse surnaturellement et divine. Ah oui, à ce moment-là, c'est vrai, non mais c'est vrai, elle devient chrétienne. Mais n'empêche qu'il faut qu'on soit intelligent par la foi, contemplatif, pénétrant, il faut qu'on soit brûlé d'amour du Dieu, et il faut qu'on soit libre pour la libération, pour que la paternité de Dieu puisse s'exprimer partout et faire l'unité. Alors philosophiquement, on vous dira, vous avez trois puissances de vie spirituelle, la volonté profonde, le cœur divin, la puissance de pénétration dans la lumière, l'intellect agent, l'intelligence contemplative. Et la puissance, la mémoire de Dieu. La mémoire de Dieu, c'est quelque chose de très fort, puisque, comme vous l'avez compris, c'est dans cet instant-là, qui reste actuel dans l'état adulte, la présence créatrice de Dieu le Père, qui est en train de me créer et de faire l'unité de mon existence, de ma vie, de ma lumière, de mon amour et de ma personne, mêle sa présence créatrice intérieure à ma présence libre, originelle, intérieure. Ça va ? Les deux présences se mêlent l'une à l'autre. La présence divine créatrice et la présence personnelle libre de mon âme spirituelle acquiescente. À travers le corps. Et à cause de ça, il y a une unité. Il y a une unité totale entre ce qui est intérieur à Dieu créateur, ce qui est intérieur à tout ce qui s'intériorise dans l'intériorité de l'un créateur de Dieu, et tout ce qui s'intériorise dans l'unité de l'un créateur de Dieu, dans mon propre intériorité, et qui fait justement l'unité de ma personne. On ne pourra plus jamais séparer, même par la mort, mon corps, mon âme, mon esprit. On ne pourra pas arracher mon cœur, ou arracher mon intelligence spirituelle, ou arracher ma memoria dei. Personne ne pourra jamais faire ça. Même pas Lucifer ni l'Antichrist, personne ne pourra faire ça, jamais. Ce qui est donc, ce qui nourrit mon intelligence, c'est la vérité tout entière, la lumière, née de la lumière. Ça nourrit mon intelligence. Ce qui nourrit mon cœur spirituel, ma volonté d'amour, c'est le bien en soi, l'acte pur. La plénitude d'amour. Et ce qui nourrit ma memoria dei, c'est l'un. Voilà ce que dit Aristote. Vous avez donc la vérité, verum, le bien en soi, l'amour, bonum, et puis vous avez unum, l'un. Dans ce qui déborde de mon corps, à partir du corps, à travers le corps et de l'intérieur du centre de mon corps, ces trois puissances, eh bien, j'ai besoin de trois nourritures. La vérité tout entière, verum, le bien en soi, l'amour, et l'un. Il faut que je me nourrisse de l'un. De l'indivisibilité vivante, spirituelle, métaphysique et physique de l'un. C'est une unité intérieure vivante de l'un, c'est indivisible. Mon unité intérieure de ma liberté et la liberté de Dieu sont indivisibles. Et du coup, l'unité, et tout ce que quand Dieu est là et qu'il est en train en me créant, il est en train de créer tout ce qui existe. Je suis présent à tout ce qui existe. Et entre nous soit dit à tout ce qui existera.
Et ça, c'est une capacité spirituelle physique de la nature humaine. Vous saviez ça? Donc il faut reprendre en main ça, dans la lumière et dans l'amour, et reprendre en main donc notre corps origine actuelle, en le laissant traverser par la présence dans l'unité, vous voyez, l'un avec l'Immaculée Conception qui vit ça dans la plénitude reçue de ce qu'elle est, dans un oui à question qui est continuel, et qui traverse tous les temps, tous les lieux, et qui traverse même les temps de la durée et de la résurrection, hein, dans l'un, justement. Et je la laisse, et dans l'au-delà de l'unité des deux avec elle, je suis dans une capacité de recevoir et de faire la célébration eucharistique. Et donc de recevoir l'un de l'union hypostatique déchirée de Jésus. L'union hypostatique de Jésus, c'est sa liberté originelle qui s'immole dans tous les temps, dans tous les lieux. Alors à ce moment-là, je célèbre l'Eucharistie. Et je reçois la plénitude de grâce qui y est liée. Et puis dans cette lumière, je la touche jusque dans sa substance éternelle. J'y pénètre, je l'assimile, j'en vis. Et puis je me laisse brûler. C'est le Saint-Esprit qui brûlera mon cœur. D'utiliser les trois puissances spirituelles de l'âme, c'est très beau, c'est très utile, c'est très intéressant. Vous me direz, moi je ne fais pas comme ça d'habitude. Évidemment, si personne vous a dit, personne vous le faisait, si personne vous l'a dit, vous ne l'avez pas fait. Moi j'assiste à la messe, j'arrive juste à l'heure de la messe, juste. Je connais certaines personnes, vous savez, j'en connais. Hein. Bon, vous ne connaissez pas bien sûr, mais j'en connais moi. Je rencontre des gens tarés, vous ne pouvez pas savoir. Plus qu'à tôt, tu meurs, c'est le cas de le dire. Hein. Voilà. Et puis voilà, la messe est à 11h. Bon, il me faut 7 minutes pour aller jusqu'à l'église. Bon, il est 11h moins 10. Bon, j'ai encore le temps. 11h moins 10. Bon, j'ai encore le temps quand même. Il me reste encore. J'ai encore une minute ou deux pour donner un coup de téléphone. On arrive forcément à 11h moins 7. Malheureusement. Pour raccrocher le téléphone, il faut encore une minute, 11h moins 6. Aller à la bagnole, 11h moins 5. J'arrive minimum, au mieux, 5 minutes après le début de la messe. Donc la messe est foutue. Parce que le miracle des trois éléments est impossible. Donc j'arrive à la messe en posant d'abord un acte contraire à l'humilité. Puisque aller en retard, ça veut dire vous avez un rendez-vous, vous vous rendez compte, vous avez un rendez-vous avec le pape. Vous avez un rendez-vous avec le pape. Moi, ça m'est arrivé une fois, rendez-vous comme ça avec Jean-Paul II, d'accord? Donc j'avais rendez-vous. Bon, rendez-vous à 7h du matin. Hein? Et puis vous arrivez à 7h15. Lui, il attend depuis 7h moins 5. C'est normal, c'est au pape d'attendre. Hein. Je suis bien au-dessus du pape, c'est pas moi qui attends le pape quand même. Oh, c'est le pape qui doit m'attendre. Et la messe?
Jésus dirait.
Donc je suis très au-dessus. Ah, mais de toute façon, j'ai Magnificat, j'ai pris en église, j'ai déjà lu les textes. D'où l'expression « plus qu'à tôt, tu meurs ».
Non, non, mais il y a aussi l'exactitude et la politesse des rois.
Oui, mais l'humilité. Donc l'humilité, d'après saint Benoît, j'arrive jamais en retard. Il y avait comme ça un père dominicain, il m'a invité au couvent là-bas, c'était Solfard. Et comment il s'appelait celui-là, mon Dieu, Père Gérard Delaurier. Père Gérard Delaurier, on raconte cette histoire. Lui, il arrivait toujours pile pour les offices. Il arrivait pile. une seconde avant. C'est chronométré. Une seconde avant. Alors un jour, les novices, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un filon dans le couloir, là. Et puis au moment où ils passent, ils ont tiré le filon. Paf, il est tombé, il est arrivé 10-15 secondes après. Tous les frères dans le cœur éclataient de rire. Pas arriver une seconde avant. Bah, il n'était pas un, s'il vous plaît. C'était pas un. Ah oui, d'accord, exactitude, mais. Bah oui, mais enfin, exactitude. Bon, c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir avec ce que je dis, mais vous voyez. De temps en temps, il faut quand même dire, attendez, c'est l'oraison, c'est pareil, on n'arrive pas en retard à l'oraison. Si vous commencez l'oraison de manière orgueilleuse, ça ne va pas, en disant, voilà, stop, je prends mon chronomètre maintenant, stop, je reste une demi-heure avec Jésus, je m'installe, voilà, ça a commencé, je m'installe dans le fauteuil. Attendez, l'oraison, ça se prépare, vous avez la préparation lointaine la veille au soir, vous avez la préparation prochaine avant l'oraison. Et puis après, vous avez le début de l'oraison, qui est la préparation immédiate. Puis après, vous avez l'oraison. Je connais plein de gens qui font l'oraison. Il n'y a jamais la préparation lointaine. Il n'y a pas la préparation lointaine, il n'y a pas la préparation proxime, il n'y a pas la préparation immédiate. Un document très intéressant en blanc, là, qui s'appelle l'oraison, l'union transformante. Et on fait comment pour faire raison? Ah oui, non, on arrive, puis c'est le Seigneur qui fera le reste. Et du coup, il y a la folle du logis pendant la demi-heure d'horizon, c'est normal. Ou alors le sommeil, on dort. Alors c'est Madame de Maintenon qui fait raison. L'Église a condamné cette raison. Ça, c'est une hérésie pratique, ça. Pour être dans l'humilité, dans la raison, en préparant tout. On prépare, il faut qu'il y ait tout. Il faut qu'il y ait le désir. Il faut qu'il y ait la demande. Il faut qu'on ait... Oui. L'humilité, c'est très important pour recevoir la grâce. L'espérance, c'est la vertu qui fait que on élargit tous nos espaces intérieurs à la réception de la grâce en plénitude reçue. La grâce n'est pas à notre mesure, hein. C'est à la mesure de Dieu. Et donc, l'espérance, c'est se mettre dans la mesure de Dieu, et ça ne se fait pas en 15 secondes, et il faut une préparation lointaine, une préparation de désir, une préparation proxime, une préparation immédiate. Hein? C'est ça que je vous dis toujours, le soir quand vous vous endormez, c'est la préparation lointaine. C'est votre désir ardent, surnaturel, quand vous vous endormez le soir, qui va faire le climat de votre oraison du lendemain. Parce que vous dites, qu'est-ce que j'aimerais que Saint-Esprit puisse me montrer ce qu'il y a à l'intérieur de lui quand il découvre la foi de Saint-Joseph le jour de son mariage. Ah ben, pas tout, c'est intéressant. C'est vrai, c'est intéressant, ça. C'est quelque chose que je ne suis pas habitué à regarder. Moi, je regarde plutôt les films. Hein. Alors, c'est ça. Donc, je voudrais voir ça, je voudrais voir quelque chose, je voudrais tellement revoir, par exemple, je voudrais voir ce qui se serait passé si, dans mon oui originel, 9 mois avant la naissance, j'avais reçu immédiatement le baptême. Sacramentel, hein? Grosso modo. Ce que je crois, ce qui s'est passé pour Saint Joseph, il a connu le péché, il a connu le premier instant, il n'était pas Immaculée Conception. Il y a eu cette propagation du péché originel, mais il a reçu tout de suite le baptême. Donc il a été touché par le péché originel, mais il a tout de suite reçu le baptême. C'est à cause de son ajustement substantiel, parce que quand Dieu te crée, il te prédestine, hein, si tu es lié à la prédestination. Et avec Saint Joseph, c'était son cas. Hein. Et donc il a reçu le baptême. Jean-Baptiste, il l'a reçu au 6e mois, mais lui, il l'a reçu très très vite. Hein. Quelques minutes après sa conception, après son existence, dans le oui. Il a tout de suite dit oui à sa vocation, à la signification responsable de son corps. Hein. Et donc, comme c'était l'Immaculée Conception, il a été baptisé presque immédiatement. Mais il a connu les séquelles du péché originel. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans Saint-Joseph lorsqu'il a reçu le baptême dans son oui originel, après que ce oui originel ait été complètement gangué par le goudron noir de la propagation du péché originel, tout de suite entièrement prédisposé à l'ajustement substantiel avec son unité sponsale, avec l'Immaculée Conception. Mais qu'est-ce qui s'est passé en lui? Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa liberté, dans l'ordre du temps, une ouverture qui s'est faite, une espérance. Si je pouvais essayer d'exprimer, de voir, de pénétrer, d'imaginer, de percevoir ne serait-ce qu'un peu l'immensité de l'espérance surnaturelle de Saint-Joseph après son baptême, dans le ventre de sa mère. Vous vous endormez le soir avec une curiosité surnaturelle, d'accord? Ou un des mystères du rosaire, dis-moi comme vous. Il y a des mystères, je n'ai pas très bien compris ce que c'était, ce que signifiait ce qu'il y avait à l'intérieur de Dieu quand il s'épanouit complètement dans le mystère de la transfiguration, par exemple, sur le mont Tabor. Voilà, bon, plein de choses, enfin, il y a des milliards de possibles. Vous endormez le soir avec une soif de pénétrer, de voir, de toucher, d'adhérer, et du coup de voir, et du coup d'assimiler, de contempler et d'en vivre, du coup, et du coup ça vit en vous. Mais ça c'est l'oraison, du coup ça vit en vous pendant une demi-heure et ça vous transforme. Mais il faut une préparation lointaine pour ça. Il faut aussi qu'il annuie, parce que c'est votre esprit. Si votre désir s'exprime le soir, vous avez un avantage énorme, c'est qu'il y a une nuit. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'efforts pour rentrer dans la nuit aquasée de l'âme, dans le sommeil. Elle vient naturellement. Et vous avez donc la préparation lointaine. Puis après, le lendemain, il ne vous reste plus que la préparation immédiate. C'est génial. Il faut arriver à l'avance pour la préparation immédiate. Alors... préparation lointaine, préparation lointaine. Et pendant cette demi-heure où vous oubliez complètement Memoria Dei, où vous oubliez complètement vous-même dans votre vie, pour entrer dans le oui de votre capacité à ne rien oublier de Dieu, à recevoir la liberté dans l'ordre du temps, voilà, vous vous installez dans cette Memoria Dei-là pendant une demi-heure de suite. Avec ce que vous avez désiré recevoir. Et bon, je vous le donne, Saint-Esprit vous le donnera, ne vous inquiétez pas. Hein. La préparation immédiate, c'est de redire plusieurs fois, lentement, intérieurement, avec une ferveur maximum, les mots qui vous introduisent dans l'union transformante. C'est pour ça que je vous ai dit hier, avant-hier, la petite prière du Père Montfort est très bien pour ça. Si vous réalisez spirituellement et incarnez intérieurement et surnaturellement que chacun des sept moments de cette prière correspondent à la transformation de la première demeure, puis la transformation de la deuxième demeure, puis la transformation de la troisième, puis la transformation de la quatrième, puis de la cinquième où tout s'ouvre, tout est ouvert, le sang est là et là. Et la liberté du coup, à l'amour de vous prendre, de vous consumer entièrement, et après vous êtes consumé entièrement. Vous dites cette prière, vous la dites tranquillement, lentement, avec ferveur, mystiquement, surnaturellement, en touchant, en vivant, en aimant que ça se produise, et en espérant, c'est-à-dire en ayant confiance totale que ça se produit. Jusqu'à l'accomplissement de votre entrée dans la vision béatifique. Vous voyez, j'ai fait trois fois un acte de foi, d'espérance, de charité, puis d'amour. Avec cette prière-là, vous le faites 3, 4, 5, 15, 20 fois. Ça, c'est la préparation immédiate. Et une fois que ça y est, vous êtes en présence du monde spirituel et surnaturel, vous pouvez rentrer dans le miracle des trois éléments et l'union transformante elle-même. Vous prenez le chronomètre et vous avez demi-heure d'oraison. Thank you. Ce serait étonnant. Si vous faites ça pendant 6 mois, tous les jours une demi-heure, ce serait très étonnant que vous n'atteigniez pas quasi immédiatement, en quelques mois, la 5e et la 6e demeure. Et pour ça, vous sentez, il faut rentrer progressivement par la préparation lointaine, la préparation immédiate, dans une humilité substantielle, une réceptivité substantielle, qui s'unit dans l'un à la réceptivité substantielle de plénitude de grâce, de l'immaculée conception, et puis vous allez dans l'au-delà de l'unité des deux. Et là, vous recevez la mémoria de l'union hypostatique de Jésus qui dit oui, dans l'instant d'incarnation. Et ce oui ne cesse jamais d'être lui-même tout le temps dans son immolation, dans la substance de son immolation et dans la transverbération universelle du corps mystique de l'Église tout entière. Et quand vous allez dans l'au-delà de l'unité des trois, alors à ce moment-là, ça y est, vous êtes dans l'union transformante. Il faut aller toujours, toujours dans l'âme. Engloutissez-vous avec la memoria dei, engloutissez-vous, j'aime bien dire ça, engloutissez-vous dans l'indivisibilité de l'un. De la Jérusalem totale. Faire une petite confidence, vous savez qu'à un moment donné, à la fin de la messe, pas à la fin de la messe, il y a par exemple, on dit voilà, on prie pour les défunts, et puis après, on invoque les saints. Alors il y a Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, 19. Bon. Ça vous dit rien, ça, 19. Bon, vous n'aviez jamais pensé à ça, hein? Bon, alors...
C'est quoi, c'est neuf? Pardon!
Non, mais... Puisqu'on est à la deuxième partie du canon, notre memoria dei, unir la memoria dei, de toutes les eucharisties, tous les temps et tous les lieux, investit toute l'intériorité de notre prière, oui ou non? Et du coup, elle s'introduit à travers nous dans l'unité de l'Église. Alors, il y a tous ceux qui sont au ciel dans la vision béatifique, il y a l'unité de l'Église militante, toutes les messes de tous les temps, de tous les lieux, il y a tous ceux qui sont bien sûr au purgatoire, qui assistent avec l'ardeur d'une soif, que tous pensent avec leur memoria dei, communiquer tout ce qu'ils ont substantiellement à eux, qui sont en pleine purification, illumination et transformation parfaite. Et ainsi, bien sûr, que ceux qui sont dans le baptême de l'innocence crucifiée, qui triomphent divinement dans l'innocence triomphante du Christ, voilà, etc. Et aussi, surtout, le monde angélique. Tout ça forme une espèce de tourbillon de l'un de l'Église, l'un du corps mystique de Jésus, l'un de la Jérusalem. Vous avez la Jérusalem terrestre, c'est l'Église militante. Vous avez la Jérusalem souffrante, vous avez transformante, c'est le purgatoire. Vous avez la Jérusalem glorieuse, c'est ceux qui sont dans la vision béatifique, mais encore arrachés de leur corps. Et leur corps est sous la juridiction de l'Église de la Jérusalem terrestre, la nôtre. C'est nous qui avons autorité sur la chair de ceux qui sont au ciel. Bon, c'est un autre problème. On en parlera demain, ça. Parce que la libération, c'est très important, ça. Et puis vous avez la Jérusalem de la chair glorifiée, le fameux cœur unique d'amour de Jésus-Marie-Joseph en une seule gloire, brûlure, incorporelle et glorifiée de résurrection. Et puis vous avez Jérusalem de l'union hypostatique glorifiée de l'agneau qui fait pénétrer tout cela comme flux et reflux dans l'intériorité intérieure de chacune des trois personnes de la très sainte Trinité dans l'un de ce flux et ce reflux. Alors, donc l'un Quand vous êtes dans l'un, vous rentrez dans. Quand vous, à la fin, vous rentrez dans l'un, vous vous engloutissez, vous vous consacrez dans l'un, dans l'indivisibilité vivante de l'un, de l'unité vivante de tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire l'endroit où tout se rejoint et passe librement l'un dans l'autre. Dans une liberté totale du flux, du reflux, du passage, de l'unité et de l'amour, de la lumière. Et librement surtout. Alors, il y a 19 manières pour l'un de s'exprimer. Celle de Jean le Baptiseur. Et chacun, c'est comme des diamants, des émeraudes, des rubis. Il y a 19, vous allez à Jérusalem, vous allez regarder toutes ces formes de pierreries. Hein? Vous avez deviné combien il y en a de formes de pierreries dans l'Apocalypse? Il y en a 12 pour la Jérusalem, hein? Mais il y a d'autres pierres, hein, dans l'Apocalypse que celles qu'il y a dans les portes de Jérusalem. Il y a 19 manières de rentrer dans l'un. Hein? Nous, dans la communauté des martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne. Étienne, c'est une des formes de l'un, une des formes de la glorification de la substance de l'un. Oui, c'est-à-dire c'est l'unité, toute la Jérusalem céleste glorieuse où ils sont, la résurrection de Jésus-Marie, le corps, ça sont un avec cet un, librement avec le un de la Jérusalem spirituelle, la Jérusalem temporelle, la Jérusalem transformante, la Jérusalem innocente, la Jérusalem angélique. Tout ça, c'est dans l'un. Et qui fait l'unité de l'un si ce n'est le fruit de l'Eucharistie? Voilà pourquoi le pape Benoît XVI a dit: vivez de la foi de l'Eucharistie, première partie. Deuxième partie, célébrez l'Eucharistie. Troisièmement, créez, concrétisez le fruit de l'Eucharistie. C'est l'unité de l'un et la libre circulation de la Jérusalem glorieuse avec la Jérusalem spirituelle, avec la Jérusalem temporelle, avec la Jérusalem transformante, avec la Jérusalem angélique. Il y a une unité, celle d'Alexandre, c'est pas la même que celle d'Anastasia, c'est pas la même que celle de Cécile, c'est pas la même que celle d'Agathe. C'est symbolique, je suis d'accord. Ah, il faut pénétrer dans les 19 modalités de l'un en les parcourant toutes ensemble et puis après par lui, avec lui, en lui, que ça ne soit qu'une seule unité dans l'un. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? D'une puissance angélique ou d'une puissance humaine transformée par la grâce surnaturelle et divine de Dieu? C'est une personne humaine, c'est lié au corps originel, c'est lié à la liberté dans l'ordre du temps. C'est l'idée Memoria Dei. Parce que l'un est l'objet de cette puissance spirituelle de la Memoria Dei. Comme le bien, l'amour est l'objet du cœur spirituel, comme la vérité et la lumière sont l'objet qui nourrissent et qui actuent l'intelligence contemplative. Il n'y a que les hommes qui peuvent faire ça. Il n'y a que les petits enfants. Donc tout ça, vous voyez, c'est un petit chant que je viens de vous faire, une petite méditation chantée, n'est-ce pas, parce que je vous chante tout ça, pour vous dire, c'est quand même pas une petite chose. Qu'est-ce que Saint-Esprit demande à l'Église d'aujourd'hui? De reprendre en main un corps originel, de reprendre en main sa responsabilité dans l'humilité substantielle, dans l'espérance, de reprendre en main sa puissance spirituelle, de réception, parce que la liberté de l'ordre dedans est récepteur, disponibilité, capacité absolue, spirituelle, universelle sur le plan de l'espace et de tous les espaces, même les espaces de la résurrection, des temps, et y compris ceux de la durée spirituelle. C'est cette capacité là, la capacité de l'un de Dieu et de l'un de toutes choses en Dieu. Donc, reprendre en main cette liberté dans l'ordre du don. C'est ça ce que les papes nous ont dit, hein, depuis trois fois, il y a trois papes qui nous disent ça. Il faut reprendre en main les origines de la vie. La liberté du don. Voilà. Et donc, c'est pas une petite chose que d'entendre ça, de dire bon, voyez, je suis bien tout à fait d'accord que je vous ai pas fait beaucoup d'explications à cet après-midi, mais je vous ai ce que je voulais faire avec le but que qui était le mien là, c'était de dire voilà, ce n'est pas rien la mémoria. La mémoria de notre liberté dans l'ordre du don, c'est quelque chose en nous qu'il faut s'en préoccuper. Il faut. Il ne faut pas perdre du temps à lire des bêtises. Mais il faut se préoccuper de l'innocence originelle et divine qui est la nôtre. Il faut se préparer. Préoccupé de cette capacité à unifier toutes choses. Le petit roi fraternel de l'univers qui unifie le monde angélique, le monde divin et la création tout entière, il n'y a que l'être humain à cause de la memoria Dei. Et donc, il faut essayer de faire mémoire de l'union hypostatique de Jésus, de l'Immaculée Conception et de notre oui originel actuel. Ça s'appelle reprendre possession et contrôle, maîtrise de soi, de son corps originel actuel. Alors voilà, on redevient libre de faire le bien et de communiquer la vérité partout. Cette liberté devient totale, il n'y a plus d'entrave dans le oui de l'un. Et lorsqu'il va y avoir, puisque le démon est venu briser ça, hein, avec le shikutsi mais soi-même, qu'on est en plein méchant en ce moment, que ça s'est brisé, c'est à cause de ça qu'il va y avoir le fameux avertissement, l'ouverture du cinquième sceau. Il va faire remonter à la surface tout ça, et que fait qu'on puisse, mais si on ne s'y est pas préparé, préparation lointaine, si on ne s'est pas préparé, préparation immédiate où on est en ce moment, quand il y aura le cinquième sceau, on aura l'air malin. Enfin, on s'en sortira quand même. C'est extraordinaire. Et donc, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on se voit ensemble. Allez, on refait des exercices de remise à la surface, de reprise en main, voilà, de la memoria Dei. Vous l'avez maintenant, le texte. Faites le PPV3 si vous en avez. Faites les exercices. Commencez. Vous pouvez commencer par ce qui est le plus facile, c'est-à-dire... Bon, la 19e étape, puis après vous faites la 18e, puis après vous faites la 17e. Il faut toujours commencer par la fin. Non.
Malheureusement.
Ah non, PPP. Avec le PPP pneumatosio naturel, sûrement pas. Il faut toujours commencer par les derniers exercices du PPP1, les derniers exercices du PPP2 et les derniers exercices du PPP3. Hein? Pardon?
Du coup, vous n'avez pas fait l'inverse, vous n'avez pas mis les derniers en premier.
C'est parce que il faut que spontanément les gens comprennent qu'ils n'aboutissent dans l'origine qu'en fonction de la cause finale. Il faut qu'ils s'y habituent à ça. Instinctivement, ils sont dans la cause efficiente. Tout de suite, il faut qu'ils aillent vers la cause finale pour trouver la liberté dans la cause actuelle. Dans la cause formelle, c'est ça. Ça, c'est une phrase d'Aristote. C'est évident. Voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des choses que vous avez... Est-ce que vous avez des choses que vous n'avez pas compris?
Je voulais savoir pour ceux qui ne peuvent pas assister à la messe et qui la regardent à la télévision.
Oui.
Alors.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'ils font partie de... Est-ce que... Même s'ils ne communient pas, par rapport à des choses, puisqu'ils regardent
oui.
la messe à la télévision.
Oui.
Est-ce que pour eux, ça a valeur de messe?
Est-ce qu'ils célèbrent partie
de...
Bon, quand tu fais ça, est-ce que tu célèbres la messe?
Non, moi je ne le fais pas. Parce que...
Non, mais alors supposons que ça... Ah bon. Tu poses la question.
Par exemple, pour mes parents qui vont. Qui...
S'ils sont paralysés, s'ils sont. Agonisants, grabataires. Hein?
Ils ont du mal à.
Oui, c'est ça, ils sont grabataires.
Non, ils sont pas grabataires. Je voulais savoir si.
L'oraison prime sur la mer. L'oraison prime sur la messe. J'espère que vous avez compris ça quand même. Parce que l'oraison, c'est l'union transformante. La messe, c'est une participation. Et si vous allez à la messe, bien sûr, mystiquement, vous pouvez assister à la messe. Quand vous faites oraison, j'espère qu'à la fin de l'oraison, vous êtes immédiatement en contact avec l'unique messe du monde et que vous rentrez du coup à ce moment-là dans l'oblation mystique, réelle, substantielle, universelle et catholique du sacrifice unique de la messe d'aujourd'hui. Pas d'une messe à la télévision, mais de l'unique messe, de toutes les messes, du million de messes qui étaient célébrées aujourd'hui, dans une seule messe. Et tout ça, un petit peu, je vous dis, comme vous avez des milliards de fois le oui originel dans chacun des génomes de votre corps, ça fait bien un seul oui originel actuel. L'oraison, elle vous permet d'atteindre l'un de l'unique sacrifice. Du coup, vous pouvez dire par lui, avec lui, en lui, terminer votre oraison par le Notre Père, de la messe mystique, surnaturelle, réelle. Vous avez donc le reste, la présence réelle de toutes les messes du monde. Même si vous n'avez pas été au sacramentum de cette présence réelle. Voilà ce qu'explique saint Thomas d'Aquin. Donc la res, c'est plus que le sacramentum. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le sacramentum, parce que sans le sacramentum, il n'y a pas la res. C'est grâce au fait qu'il y ait la messe que du coup, ceux qui font raison peuvent rentrer dans le sacramentum, dans la res, pardon. Dans la présence réelle. Et ce qui compte, c'est la présence réelle. C'est le fruit. Donc l'oraison prime sur la messe. C'est ce qu'a dit leur père dans son encyclique, Saint-Père Benoît XVI. Il a dit, voilà, la troisième partie, c'est quand même plus important que les deux premières. Sans aucune hésitation et sans aucune comparaison. La reste, le fruit du sacrement, c'est au-delà de tout. C'est vrai qu'il faut passer par la présence réelle des sacrements, puisque Jésus les a institués pour qu'ils soient une source pour le monde entier. Et il nous a choisi, nous, pour célébrer la messe. Donc tant qu'on peut célébrer la messe, on célèbre la messe. Mais notre souci à nous, c'est le fruit du sacrement, c'est la transformation, c'est l'oraison.
Et presser le fruit du sacrement.
Oui, presser le fruit du sacrement, c'est pour qu'il donne son fruit. C'est pour qu'il donne son fruit. Et puis surtout qu'il soit consommé par tous ceux qui en ont âme, qui en ont soif sans le savoir, ou en le sachant. Les anges sont assoiffés, les âmes du purgatoire sont assoiffées, les âmes qui sont des enfants de l'innocence crucifiée, triomphante et divine sont assoiffées. Et ça dépend uniquement de notre attention, notre intention et notre charité attentive, libre. Souveraine, présente, lucide, pour que ça atteigne tous ceux qui en sont assoiffés. Alors, il y a des choses. Donc, voilà. Voilà. Si je devais résumer ce que je viens de vous dire pendant 2 heures, c'est important de faire le PPP 3. Un Memoria Dei, c'est pas rien. C'est important de faire vite remonter à la surface le PPP3 et user de vos puissances de vie spirituelle, de la puissance surnaturelle, de la grâce en plénitude reçue. Utilisez-le et retrouvez la liberté du don et retrouvez cette innocence divine originelle, retrouvez cette capacité de vous y fondre dans celle de l'Immaculée Conception et aller au-delà de l'unité des dieux avec elle dans cette liberté du don qui vous permet du coup, qui vous permettra donc du coup de rentrer dans la liberté du don de l'Église tout entière dans l'un de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem spirituelle de la foi. Alors, vous allez vous consacrer. Consacrer en ce sens où je m'engloutis et je ne vis plus que de l'indivisibilité de là, de l'Église, du corps mystique de Jésus vivant entier. Hein, vous êtes capable de faire ça? Je vais me consacrer, m'engloutir dans l'indivisibilité vivante de l'un divin, du Verbe de Dieu, qui est Église, épouse du Père. Je me consacre, je m'engloutis, je disparais, je ne vis plus que ça. Je ne vis plus que ça. Et j'y reste suspendu. Oh, que c'est beau de faire ça. Alors, ma innocence divine originelle est transformée. Elle devient tout à fait elle-même et mon humilité devient tout à fait non seulement substantielle mais super substantielle, ainsi que l'explique Ruiz Brueck l'admirable, le bienheureux Ruiz Brueck l'admirable. Une humilité super substantielle dans l'âme. C'est la grâce qui fait ça. Donc c'est pas rien le PPP3. Parce que ça va, grâce au PP3 remis à la surface d'une vie purement spirituelle, bah, ça va nous dégager complètement du monde psychique. Parce que dans le oui originel, on n'avait pas de psychique, il n'y avait pas de blessure psychique, de névrose, de psychose, de machin, vous comprenez? Donc les entraves psychiques n'y sont pas dans le oui originel. Alors, grâce à la liberté dans l'ordre du don, on redevient totalement spirituel. Et du coup, nos amours, notre cœur devient nos actes d'amour et nos actes de vie contemplative de lumière deviennent de plus en plus, grâce à la liberté de l'ordre du temps, deviennent totalement spirituels. C'est devenu essentiel dans un monde qui a au contraire fait que tous les hommes sont entièrement psychiques. Surtout les cathos. Voilà, d'accord. Donc c'est important de faire le PPP3. Mais de toute façon, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Là. Nous, on reste ici. C'est pas, les petites, là, elles vont partir à Toulouse, mais elles vont le faire aussi. Donc, on va continuer. On n'a pas du tout fini. On est juste à l'introduction, là. Voilà, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, donc avant que vous ne partiez, je vous dis simplement une petite. Vous, les deux petites, là, vous allez partir, vous allez à Toulouse. Enfin, les deux petites et deux grandes, là. J'ai senti qu'elle n'aimait pas que je dise petite. Elle est orgueilleuse, quelquefois. Un peu, hein. Un peu. Pas beaucoup, hein. Ouais. Voilà. Oui. Essayez de vous tenir au courant des événements mondiaux. Pas longtemps. France Info. Pendant 5 minutes, ça suffit. Ça tourne, vous avez tout. Ou alors, télématin sur la deuxième chaîne, je crois. Hein, il me semble, télématin avec William. William l'énergie. William l'énergie, il donne des trucs très très bons. Ce qui se passe. Après, on ne les aura plus sur TF1, sur les infos de 20h, on ne les aura plus. Vous avez les événements du monde, ce qui s'est passé, ce qui se passe. Ça, c'est mettez sur votre radio, sur votre télévision, mettez une icône, mettez une statue de la Vierge, mettez une hostie bénie, mettez des médailles miraculeuses, faites un petit papier en disant je consacre toutes les ondes des médias, je les consacre tous à la Sainte Vierge, à l'ange Gabriel et à l'ange Gabriel, pour que cette bénédiction qui est la vôtre passe par votre poste, pénètre dans toutes les ondes et à chaque fois et dans toutes les télévisions qui ne sont pas KTO. KTO c'est foutu de toute façon. Alors il faut consacrer la télévision à Marie et aux sept anges de la face de Dieu, hein, d'accord. Et faites un petit papier, montrez bien que c'est recouvert. Montrez bien que c'est recouvert par quelque chose qui est, voilà, c'est consacré, c'est dedans. Et les ondes, du coup, voilà, n'hésitez pas à écouter au moins un peu, pas trop, hein, mais un peu, les informations du monde. Soyez au courant, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe, les déclarations, etc., ce qui se passe au Conseil des ministres, tout ce que vous voulez, ce qui se passe avec Fillon, ce qui se passe... Même si vous ne comprenez pas tout, ça fait rien. Recevez les informations. Et puis le matin, quand vous vous réveillez, n'oubliez pas que vous avez un acte à faire de liberté universelle. Vous devez prendre contrôle sur les événements d'aujourd'hui. Parce que qui est-ce qui commande? Est-ce que c'est Sarkozy? Est-ce que c'est Obama? Est-ce que c'est la pieuvre noire? Est-ce que c'est les princes? Est-ce que c'est les affidés des princes de l'enfer? Ou est-ce que c'est le roi qui commande? Le roi, c'est le Christ. Et ceux qui tiennent lieu du roi, c'est les chrétiens catholiques, en état de grâce. Ceux qui ont autorité. Et donc vous décidez. Vous écrivez en disant, j'ordonne, je demande au roi des rois, au roi du ciel et de la terre, de faire en sorte que ça se calme en Égypte. Et que ce ne soient pas les frères musulmans qui prennent le pouvoir. Voilà, au bon Saint-Joseph, on est bien content. Vous vous en chargez, c'est fait, c'est décidé, c'est réalisé. Amen. Voilà, vous prenez ce qui vous inspire, voilà, tout ce qui vous inspire. Alors, tout ce qui vous inspire, quelque chose, chaque jour, vous prenez un acte d'autorité royale sur les événements du monde. On est au-dessus de l'Antichrist quand même. On a plus d'autorité que lui. Et notre autorité, elle est féconde, efficace, dans le temps concret de la terre. À cause de la memoria Dei, on a cette autorité avec la royauté surnaturelle du Christ. On prend contrôle.
Et on décide. Même là où on demande à Saint-Joseph.
Voilà, vous écrivez un petit papier. Problèmes. Oui, parce que c'est dans l'unité avec le roi des rois, l'unité de l'Église tout entière, qui passe à travers vous. Mais vous le deviez, vous le donnez, il s'en occupe. Mais en tout cas, vous avez mis votre. Vous ne vous êtes pas désintéressé de la gestion du royaume.
On dit j'ordonne, je demande au roi des rois.
Non, vous ne dites pas j'ordonne. Vous dites voilà, très bon Saint-Joseph, est-ce que vous pouvez vous occuper de cette histoire-là? Là, qu'est-ce que c'est que cette histoire là de je sais pas moi, j'en sais rien. Je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Voilà. Il y a un souci. Je sens à travers les informations, je le sens. Ils le disent pas que ils veulent faire en sorte que qu'il y ait une des attentats à Paris, dans toutes les églises, etc. Bon, on sent qu'il y a quelque chose, une histoire de feu et de sang. Oui. Eh bien voilà, je vous demande, Saint-Joseph, de déraciner cette intention, de déraciner les démons qui pourraient leur donner une efficacité à cette intention, de déraciner et de faire sortir de leur intention ceux qui veulent le faire et faire que ça ne se produise pas. Par exemple, on pouvait demander plein de choses. Par exemple, moi l'autre jour, vous savez pas ce que j'ai mis. Ça va faire plaisir à Francesco. J'ai mis très bon Saint-Joseph. Dit bon, si l'euro doit disparaître, vous lui donnez encore 6 mois et 6 semaines pour qu'on ait le temps encore de gérer un petit peu nos euros d'ici là. Vous en occupez. Non, pour gérer les euros d'ici là. Parce que ça oui, parce que bon, les lenteurs, les hésitations, les discussions, tati, patin, copain. Bon, attends, bon, alors très bien, allez. Bon, que quoi là. Et que si, je dis, et que si, il y a une monnaie qui doit. Je sais, je sens, je crois, qu'il voudrait que l'euro saute avant le dollar. Donc je lui ai mis, il faut que l'euro tienne très très bon et beaucoup mieux que le dollar, encore pendant 6 mois. Et s'il y en a un qui doit sauter, que ce soit le dollar. Amen. C'est moi qui ai décidé. La pieuvre noire, elle veut que ce soit l'euro qui saute avant le dollar. Hein. Et bien, grâce à Dieu, ça donne. Vous pouvez faire ce que vous voulez, avec n'importe quoi, à condition que ce soit dans la direction, que ce soit dans la direction des pauvres, des innocents, que ce soit pour briser la force des princes et des affiliés de l'enfer. Hein. Vous faites... vous avez... je ne sais pas, moi... Hein, quand on a fait ça avec Nicolas, on l'a fait. Quand ils ont commencé leur bagarre là sur la Tunisie, l'Algérie et surtout bon ces derniers jours c'était surtout la comment dire l'Égypte, c'est ça bon. En fait l'ancienne Numidie.
Non, c'est l'Égypte.
Oui, donc l'Égypte. Si l'ancienne Numidie c'était la Tunisie, l'Algérie là-bas le comment tu dis le
Maroc,
etc. Le Yémen. Oui, ça c'est un peu plus bas. C'est un peu plus bas sur la corne de l'Afrique. Ça. Mais de très nettement, à l'origine, ce qui s'était passé à l'origine, c'est que Ben Laden, on a entendu à la radio, Ben Laden déclare la guerre à la France. En disant je déclare la guerre à la France, il va y avoir, on va y mettre et on demande à tout de mettre à feu et à sang la France d'ici la fin de la semaine. On démarre cette guerre et vous allez voir ce que vous allez voir. On a mis un petit mot, on a dit, ben voilà, c'est nous qui prenons autorité sur Ben Laden pour qu'il soit démasqué, pour que tout le monde sache officiellement que ce n'était pas un musulman, mais que c'était un membre de la CIA. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Et que c'est un membre de la CIA, que c'est un membre des Illuminati, etc. Deuxièmement, qu'on arrache de lui toute la connexion entre des gens qui sont dans l'islamisme et lui. Entre les gens qui sont dans l'islamisme et les puissances illuminatives et bancaires. Entre les puissances bancaires et les démons. On les sépare, on passe la tronçonneuse, avec le sang de Jésus. Hein. Enfin, on les arrache les uns des autres. Hein, puisque c'est la connexion entre les cinq qui fait qu'ils peuvent arriver à leur fin. Donc nous, on a pouvoir de déraciner les démons, on a pouvoir de couper les liens entre les uns et les autres, et de faire en sorte que par les médias, les choses soient démasquées, au moins, même si c'est invisible, ça s'est fait, hein. Ça s'est fait, vous ne pouvez pas savoir, c'est incroyable. Il a été démasqué, patin koufa, les démons n'ont pas pu rentrer dans le processus, ils n'ont rien pu faire. On a mis ensuite une ligne Maginot. On a mis une ligne Maginot, on a fait dessiner à la France une ligne Maginot avec Uriel, de manière qu'on ne puisse pas pénétrer. Alors du coup, mais comme les affidés de l'enfer, ils ont fait sortir le prince de l'enfer pour ça. Vous savez, ils ont des cultes pour ça. Hein. Ils en font des messes des sacrifices humains pour y arriver. Le prince de l'enfer, ils sont sortis, pour bien qu'ils fassent des dégâts. Du coup, ils ne sont pas allés sur la France, ils sont allés sur la Tunisie. Ils sont allés sur la Numidie. Alors du coup, ils sont allés sur la Numidie, et puis voilà. Et on s'est dit, allez, ça y est, c'est les frères musulmans, c'est-à-dire les frères musulmans liés aux banques financières internationales, liés aux Illuminati, liés aux démons, qui vont prendre le pouvoir maintenant, qui vont prendre autorité sur tous ces peuples là-bas. Voilà, alors au bout de 3 ou 4 jours, on a dit, ah non, alors on a écrit, avec Nicolas, on s'entend très bien. On a écrit un petit mot à Saint-Joseph, et puis on a dit, non, là, ça n'a pas question. Là, ici, il ne faut pas que ce soit les frères musulmans, il faut que ça s'arrête, cette montée des frères musulmans qui, à part, ne veulent pas discuter, vont prendre le pouvoir, etc. Le lendemain, on apprend que les frères musulmans commencent à fermer la fermée, qu'il y a des discussions entre eux, que finalement, il y a des pourparlers, patin, couffin, et que la montée s'arrête. Et depuis, vous savez, pendant 4 jours, ça s'est arrêté, même si Moubarak fait l'imbécile. mais en tout cas la montée des frères musulmans, de l'islamisme dans ces régions-là, c'est bloqué net. Hein. C'est nous qui décidons. Et il faut prendre conscience, si vous voulez, qu'on est les enfants de Dieu et qu'on est les petits rois fraternels de l'univers. Dans le règne Sacré-Cœur, on prend possession, on prend autorité. On le confie à Saint-Joseph et il fait ce que nous, on ne peut pas faire. Et c'est plus, je crois, avec Jésus, dans l'indivisible royauté du monde nouveau. Vous voyez, c'est du... Nous, on écrit le petit mot. À chaque fois, on dessine, moi j'ai dessiné. Tap, tap, tap. Alors du coup, j'ai fait une imagino maintenant entre la France. On a fait une imagino entre la France et puis les bordures de l'avenue Midi. On a laissé passer la Libye. On a repris pour le Liban et pour la Syrie. Et puis on est remonté en France. Là, ici, non, non. Ici, bien sûr, si les hommes font les imbéciles, ils font les imbéciles. Mais pas avec l'infestation diabolique. Ça, on a autorité là-dessus. Arraché. Ah, voilà. Ouais, vous savez qu'on peut discuter de la loi de bioéthique. Allez, hop, on dit, voilà. Voilà, vous voulez... Je sais pas, moi, je sais rien. Il y a mille trucs, hein. Dans les informations, vous attendez d'entendre des informations, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je pourrais demander au ciel pour qu'il y ait quelque chose qui se bloque dans la folie qui est en train de se mettre en place aujourd'hui? Bon, si vous n'avez aucune idée, ne mettez pas de petits mots, ne demandez pas à Saint-Joseph quelque chose qui est idiot. Donc, moi, ce que je vous dis simplement, ne mettez pas le blackout sur l'information. C'est parce que la télévision, c'est un, alors on bloque la télévision, on la met dans l'air. Gardez la télévision, consacrez-la à la Sainte Vierge, pour que les ondes puissent servir, hein, parce que l'information est très importante. Parce que si William l'énergie dit quelque chose, vous savez, au niveau des médias, les médias vont faire provoquer des événements dans un sens ou dans l'autre, vous savez. Donc on va consacrer les ondes. Consacré à Marie, consacré au royaume du Sacré-Cœur. Puis en même temps, vous, 5 minutes par jour, essayez de savoir quels sont les événements quand même mondiaux. Bon, et puis si vraiment vous êtes inspiré de savoir exactement ce qu'il faut, parce que c'est la volonté de Dieu, écrivez-le dans le détail, sur le concret, et confiez-le à Saint-Joseph. Faites le petit dessin. Si vous ne savez pas dessiner, c'est pas grave. Faites un joli cœur en disant « Je t'aime Saint-Joseph parce que tu vas faire quelque chose de concret. » Va faire ça très vite et immédiatement, je le sais, et c'est génial. Mais en tout cas, on est responsable, on a autorité et on a royauté. Et le royaume de Dieu, vous voyez, il faut laisser la possibilité au règne du Sacré-Cœur de régner. Et ce royaume, c'est ça le règne du Sacré-Cœur, c'est un règne politique, mais c'est un règne politique qui passe d'abord par l'unité surnaturelle, et qui permettent de rentrer dans le fameux combat eschatologique pour écarter l'infestation diabolique, pour qu'il y ait un génocide. Vous prenez par exemple le Rwanda. Le Rwanda, c'était le pays le plus catholique du monde, 94% de catholiques pratiquants. Dans la constitution, on mettait les éléments de l'évangile. Vous aviez donc là quelques Hutus, comment vous appelez ça, les Hutus et les Tutsis et les... Les Hutus, les Tutsis. Bon, très bien. Allez, des Carmels, tout ce que vous voulez, c'est extraordinaire. Bon, c'était un pays extraordinaire. Comment est-ce qu'ils ont réussi en l'espace de 3 jours à faire qu'ils s'égorgent tous les uns les autres, alors qu'ils allaient ensemble à la messe? Ils étaient de la même famille, du même village, du même quartier, du même couvent, du même prieuré, du même Carmel. On ne savait même pas laquelle était Tutsi, laquelle était Hutu dans le Carmel. 3 jours après, elle s'est gorgée à couteau. Vous croyez que ça s'est fait comme ça, toc toc? C'est impossible qu'il y ait un génocide s'il n'y a pas une infestation diabolique, s'il n'y a pas un conditionnement avec la plus haute technologie moderne. Des fréquences métapsychiques, des fréquences alpha, bêta, etc. S'il n'y a pas en même temps les décisions bancaires et surtout le catalyseur pour engendrer tout ça. Mais il faut qu'il y ait les 5, il faut qu'il y ait les 4, pardon. Mais si on avait été là ce jour-là, si on avait été, on avait 3 jours pour réagir, si on avait dit non, on arrache, on avait un pouvoir d'exorcisme, à distance bien sûr, pour empêcher, il n'y aurait pas eu le massacre. Les catholiques sont massacrés entre eux. C'est avec la même méthode. C'est la même méthode. Moi, j'ai eu des documents précis. Hein. Ils ont utilisé la même méthode des Illuminati, la pieuvre noire, la technologie américaine, etc. Parce que c'est les Américains qui ont provoqué le génocide du Rwanda. Et les Illuminati, et les banques, et l'infestation diabolique. Hein. Il faut les quatre. Hein. C'est avec la même méthode qu'il y a eu le fameux génocide cambodgien. Vous vous rappelez ? Ce génocide incroyable, combien 4, 5, 6 millions d'innocents massacrés. Il y a eu aussi conditionnement métapsychique par le réseau, des fréquences psychotroniques. Il y a eu en même temps, bien sûr, le catalyseur, il y a eu politique, etc., politico-économico, machin, tout ce que vous voulez. Il y a eu le catalyseur démoniaque et l'infestation diabolique. Il y a eu les quatre. Il y a eu le génocide du Cambodge. Ben, je m'excuse. Mais si on ne se met pas au courant et qu'on assiste aux informations en disant « Mon Dieu, c'est terrible ce qui se passe là-bas », je ne crois pas qu'on ait fait notre travail. On a le pouvoir de déraciner la conjonction de ces quatre éléments pour faire réussir un génocide, un massacre, une catastrophe. Alors, on a annoncé, à un moment, on a annoncé il y a un mois, une espèce de, comment vous appelez ça, qui détruit tout là.
Un
cyclone qui détruit tout. Il allait droit sur.
L'Australie.
Oui, mais à l'époque,
il y avait bien en Australie, des espagnols en Floride, qui pesaient 500 km/h.
Très bien.
On n'avait jamais vu ça.
Donc, il y en avait un qui allait. Moi, j'ai su ça. Parce que quelqu'un m'a dit, William Energy a dit, il y a un truc qui va arriver demain, et il va détruire, et ça va tuer des millions d'innocents. On a mis un petit mot, et bien l'ouragan, on a mis un petit mot à Saint-Joseph, l'ouragan, au lieu d'y aller, il s'est arrêté net, il est parti ailleurs.
Bah si, il est quand même rentré en Australie.
Immédiatement, on a pouvoir sur les éléments.
Ou en Nouvelle-Zélande, parce que c'était un peu...
On a pouvoir sur les éléments, mais il faut prendre possession de notre autorité sur les
500 km.
Voilà.
Allez.
Au revoir.
9h moins 10, dernier tour.
Sur la 2.
Vous le prenez à 7h, c'est bon.
Il y a 20
7h, oui.
De 7 à 8. De 8 à 9h30, c'est moins intéressant.
De 7 à 8. On peut demander autorité pour, mettons, la conversion de nos enfants. De nos familles et tout comme ça, ce qu'on
fait. Je viens de vous expliquer, vous avez autorité pour désunir les forces occultes différentes pour qu'elles n'aient pas la même efficacité. Tu n'as pas autorité sur les libertés humaines.
Ah ouais. C'est des enfants qui décident.
Ah, Bagbo
aussi, c'est
alors.
C'est Bagbo. Le président Bagbo qui ne veut pas partir.
Ah oui, non, mais
c'est
ça.
Sur un fils, ça aussi.
Donc, bien sûr, mais là, ici. Bernard, tu entends ce catalyseur, c'est-à-dire tu fais venir 5-10 soldats pour égorger comme ça, pour démarrer l'événement, et puis ça y est, c'est parti.
Par exemple, ta petite fille Laetitia,
oui.
On aurait pu la sauver.
Mais non, parce que tu n'étais pas au courant avant. Tu n'étais pas au courant avant. Là, ce que je vous dis, moi, c'est de...
Si
t'es au courant, oui, tu peux l'empêcher, bien sûr. Quand c'était la petite Smith, Anne-Lorraine, qu'elle a été assassinée par cet homme dans le train là-bas à Paris. Bon, Anne-Lorraine était charmante, cette petite-là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le type, il était chez lui, il entend une voix, il dit, descends, va à la gare. Il est allé sur le quai, il a dit, j'étais piloté par une voix, j'étais pris, rentre dans ce wagon, et j'étais tout seul avec la petite, jette-toi sur elle. C'est un démon. Ça s'est conjoint avec quoi? Ça s'est conjoint avec une petite qui rentre le soir dans un wagon, seul,
oui,
avec un mec. Donc, imprudence, il y avait un péché. La conjonction des deux a fait le massacre. Si elle, en tant que chrétienne, Elle aurait très bien pu sortir tout de suite, ou bien elle aurait pu apprendre sortir du péché, que sais-je, elle aurait pu, c'était un péché d'imprudence quand même, c'est idiot, ou alors, je sais pas, c'est, mais en même temps, on ne rentre pas. Moi, je ne sais pas, même moi, à Paris, je ne rentre pas dans un wagon tout seul si un mec rentre. Ah non, je ne rentre pas, moi.
Ah bon ?
Ah non.
Moi, je n'ai plus de
tous. Non, pas moi. Moi, je ne rentre pas dans un wagon tout seul. S'il y a quelqu'un qui... Ah non, il y a quelqu'un qui rentre tout seul. Ah non, non, non. Non.
C'est pas bien, moi, déjà un peu, il a 5 fois, 10 fois plus de chance de t'agresser.
Non, pas au contraire, non, parce que moi, il fait l'exorcisme. Moi, il fait. Mais non, pas du tout, il fait l'exorcisme, c'est pas un problème. Mais simplement, il y avait un problème. Il y avait... Mais tu peux pas le savoir par la télévision avant que la petite elle rentre dans un wagon.
C'est ce que tu peux savoir, c'est qu'ils ont relâché un.
Par contre, tu peux lui demander à elle, Anne, tu peux demander à elle, et la petite. Comment elle s'appelle, la petite visite la mienne là, qui a trouvé la mort dans le métro parce qu'elle était bousculée par un type qui. Comment ça s'appelle, vu Anne. Vu Anne. Anne Lorraine, et vu Anne, vous qui avez été tué comme ça, dans le métro et dans le train, nous vous confions à Saint-Joseph et au ciel tout entier pour que vous obteniez de Dieu qui est la sécurité dans cette rame de métro et dans cette rame de train pour tous les jeunes gens et jeunes filles qui ont le même âge que vous. Là, vous pouvez le mettre, signer. Ça c'est sûr, et vous pouvez faire en sorte, et puis que Saint-Joseph donc, ne permette pas qu'il y ait la conjonction de quelqu'un qui est possédé par le démon et une imprudence d'innocence.
On n'est pas obligé de l'écrire, on peut le dire, c'est tout.
Faites comme vous voulez, moi je vous dis, écrivez-le, que ce soit au moins clairement dit, donné, confié, et ensemble.
On peut faire plusieurs papiers.
Mais oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Il faut que vous fassiez quelque chose qui est bien et qui contribue à la paix, et qui contribue à la désunification des forces, des affinités de l'enfer avec les forces du péché, avec les forces illuminati, avec les forces de l'antichrist et avec les forces bancaires. Ça, on a pouvoir sur les éléments pour désarticuler l'unité d'action de ces quatre sources de force du mal.
Même s'il y a le feu, parce que moi j'habite pas.
Le feu, on a un pouvoir sur le feu aussi.
On a un pouvoir sur le feu aussi.
Mais évidemment qu'on a un pouvoir sur le feu.
Sur les ondes des armes psychotropes.
Oui, les réseaux, les fréquences métapsychiques, réseaux, et tout ça. Tu n'as pas pouvoir sur chacun de ces éléments, tu as pouvoir sur la conjonction de ces éléments entre eux.
Comme l'Australie, comment ça s'est fait, inondation d'un côté, faute de l'autre.
Dans
l'Australie, ça fait 18 fois.
Oui. Bon, écoutez, moi, je vous dis ça comme ça. Dites seulement une chose, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Mais tenez-vous au courant et dites-vous, moi, je vais prendre à cœur, je vais faire une prière, je vais demander quelque chose de très précis. Il ne faut pas que je demande que quelque chose qui existe n'existe pas. Il ne faut pas être idiot, quand même. Mais qu'il y ait une coopération des libertés pour aller dans le sens du mal, ça, je peux le désarticuler. Les principautés glorieuses du ciel, les principautés glorieuses angéliques peuvent très bien avec nous rentrer dans ce combat pour désarticuler la conjonction des puissances de l'enfer avec la décision des affidés de l'antichrist pour faire une catastrophe qui va dans le sens de la dissolution de la société, de la communauté humaine. Tu demandes avec précision sur des éléments précis. Donc non seulement il faut remettre en surface la memoria dei, ce pouvoir de la liberté spirituelle dans l'horizon, parce qu'en faisant ça, du coup, vous rentrez dans l'un. Quand vous rentrez dans l'un, vous rentrez dans la capacité. Quand vous rentrez dans l'un, vous rentrez dans l'autorité sur les éléments du monde en communion avec la paternité incarnée de Saint-Joseph dans l'un de l'Église, dont par la foi vous êtes les membres. Donc c'est bien avec cette puissance de vie spirituelle qu'on appelle la Memoria Dei qu'on peut rentrer dans cette prise de contrôle et le règne du Sacré-Cœur, la destruction du mal. La destruction du mal, c'est la destruction de l'unité du mal. Le mal ne peut être un mal absolu que s'il fait l'unité entre le mal que fait l'enfer, à travers le mal que fait la communauté humaine tout entière, et le mal de la collectivité humaine, et le mal aussi des technologies, et le mal des intentions de l'Antéchrist. Alors, c'est l'unité, le pouvoir d'unité de l'un surnaturel dans l'indivisibilité de l'un de l'Église est une royauté absolue qui vient désarticuler tous les éléments qui permettent au mal d'être vainqueur dans les événements du monde. Alors ça, petit à petit, vous allez dire non, je ne veux pas être en dehors de l'information. Je vais avoir 5 minutes pour écouter France Info par jour. Ça suffit, parce que sinon c'est un baratin continuel. 5 minutes, ça suffit. Si vous prenez William l'énergie, vous prenez de 7 à 7h30, vous avez déjà tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Et de toute façon, vous écoutez votre ange gardien qui dit, allez, ouvre la télévision de 7h15 à 7h30. Et contentez-vous du quart d'heure. Ça suffit, vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est leur raison. Mais quand même, faites-le quand même parce que c'est un exercice. C'est un exercice de royauté, d'amour, de liberté qui va jusque dans le point de vue des événements, de la matière et de la prédisposition de notre monde au règne du Sacré-Cœur. Voilà, ça c'est une chose. Parce que là, je sais pas, je crois que c'est Sœur Emmanuelle, vous savez, de Medjugorje, comment est-ce qu'elle s'appelle, la Maillard, de Béatitude. Voilà, elle fait sortir des cassettes, prenez les télévisions, prenez le sabre, crevez-les, qu'il n'y ait plus de télévision, qu'il n'y ait plus de radio chez vous. Alors quoi, les chrétiens, il faut que tous, c'est les seuls qui n'aient plus accès à l'information. Non, gardez la télévision, consacrez, on est au-dessus. On a autorité, on n'est pas les esclaves de la télévision. On a autorité sur elle, on met la main sur la télévision, elle appartient à Marie, Marie est dessus, vous pouvez faire un joli dessin, vous mettez Marie, puis vous mettez la télévision à sa ceinture, ça ici, là, tac, vous mettez TV, avec son sceptre dessus. Ah, ça, j'en sais rien. Et vous mettez Saint-Joseph dessus, la Sainte Famille dessus, vous mettez un voile sacré dessus, que sais-je, j'en sais rien, une croix, vous mettez un saint, vous mettez l'ange Gabriel, ah oui, l'ange Gabriel, patron des communications, alors oui, très bien, Saint-Michel Archange, et vous consacrez toutes les ondes à travers le poste. Vous avez, hein, quand vous voulez exorciser quelqu'un, vous le prenez à plein bras, et puis vous prononcez l'exorcisme. Là, vous avez les ondes qui traîne sur toute la France, et vous avez physiquement un poste. C'est génial. Alors, c'est toutes les ondes qui sont consacrées à Marie. Vous allez voir, énormément de choses ne se feront pas grâce à ça, par la médiation des médias. Parce qu'à travers les ondes des médias et des radios, bien sûr que sur ces fréquences-là, les démons circulent. Qui est-ce qui a consacré toutes ces ondes, ces phénomènes ondulatoires au règne du Sacré-Cœur, aux anges glorieux, au miracle des trois éléments, à l'un du règne du Sacré-Cœur? Si on est une douzaine à le faire, il y a la moitié des choses mauvaises qui passent par les ondes de télévision et radio en France qui ne se feront plus. Ça, j'en suis sûr. Je veux dire par là, il faut être libre spirituellement. Et du coup, petit à petit, on va s'en rendre compte. Nous allons avoir les signes qu'il faut. Vous savez, toc, vous savez avoir la réponse le lendemain. Tiens, c'est extraordinaire. Mais il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas croire que vous avez un pouvoir direct sur les libertés ou sur l'existence de quelque chose. Ah oui, je vais demander qu'il n'y ait pas l'assassinat d'Anne Lorraine, c'est trop tard. Très Saint-Joseph, faites qu'il n'y ait pas l'assassinat de la Lorraine dans le train. Saint-Joseph, il va dire, attends, mais tu vous foutez de moi, quoi.
Est-ce qu'il faut qu'on soit avancé dans les demeures ?
Ben oui, mais vous êtes déjà dans le désir de la cinquième demeure, donc vous avez déjà le germe de la cinquième demeure. Puisque vous dites oui à l'introduction dans la cinquième demeure. Donc vous êtes dit oui. Vous êtes décidé. Donc vous vous êtes engagé, vous vous engagez à rentrer dans le règne du Sacré-Cœur, la mise en place du corps spirituel venu d'en haut, qui se met en harmonie dans l'un avec votre corps originel retrouvé surnaturellement, dans l'union transformante. Et là, vous redevenez l'enfant de Dieu et le petit roi fraternel de l'univers. C'est la fameuse prière eucharistique numéro 4, celui qui a créé le monde, l'homme à ton image, à ta ressemblance, afin qu'en te servant, toi, son créateur, et est là, là, dans son créateur, Memoria Dei, il règne sur la création tout entière. Ce royaume sur la création, c'est un royaume, le règne, c'est une autorité, elle est féconde, elle est efficace, elle est immédiate. Mais si vous n'avez pas passé la cinquième demeure, vous verrez que ce que vous avez décidé surnaturellement, spirituellement, dans l'incarnation de votre liberté, n'aura pas d'efficacité parce que vous n'êtes pas arrivé, vous n'avez pas voulu rentrer dans l'union transformante jusqu'à la cinquième demeure. Transperce-moi de tes flèches. Et que le sang qui s'écoule de moi s'écoule dans les plaies du cœur immaculé, uni au cœur ajusté, au cœur sacré, pour qu'il y ait vie, lumière, paraclet, amour partout. À un moment donné, c'est le Père qui fait là, du cœur sacré, du mon cœur, du cœur de l'Église, du cœur immaculé de Marie, et mon sang circule dans le sang, et ce sang, c'est le sang créateur de la Sainte Créatrice de Dieu avant la création du monde, et le sang accompli de l'au-delà de l'union hypostatique de Jésus, dans l'au-delà de l'agneau de Dieu. Et ces deux dans l'un qui circulent en moi dans le temps d'aujourd'hui. Je vais me consacrer à l'indivisibilité vivante de l'un. La liberté spirituelle consiste à unifier toutes choses et à vivre de cette unité parce qu'elle est l'incarnation de cette unité dans la liberté intérieure spirituelle et le pouvoir de l'exercer, de le faire surabonder. C'est pas la même chose que l'amour. L'amour, c'est le bien dans le cœur qui s'épanouit dans la surabondance du bien, de la bonté, de la bienveillance, l'extase, le ravissement. C'est pas du tout pareil que la contemplation qui consiste à toucher la lumière de la lumière, à y pénétrer, à le voir, à le contempler, à l'assimiler, à en vivre. Vous voyez, vous avez donc trois puissances de vie spirituelle. Elles ont une nature différente, elles sont distinctes, comme est distinct le Père, comme est distinct le Verbe, comme est distinct le Saint-Esprit. Nous sommes à l'image et en ressemblance de Dieu dans les puissances spirituelles de l'âme. Donc il faut reprendre en main notre cœur divin, il faut reprendre en main notre intelligence contemplative, il faut reprendre en main notre corps originel dans la liberté du don. Et du coup, avec ça, on fait oraison. Et dans l'union transformante, ça y est, mise en place du corps spirituel venu d'en haut, dans notre corps originel, mise en place du cœur sacré de Jésus dans notre cœur divin, mise en place de la transverbération universelle glorieuse, dans la transverbération universelle de l'Église militante. Voilà. Et donc, il n'y a plus que le Verbe de Dieu. Il n'y a plus qu'un mystère sponsal. Voilà. Et petit à petit, on va s'habituer à ça, on va vivre dans ce centre de gravité là. et on ne perd pas de temps avec le reste. C'est possible. Voilà, d'accord, voilà. Bon, on a quand même, on va avoir la suite de mes choses. Hein? Donc dans 10 minutes, si vous voulez, parce qu'il faut le temps de d'allumer tout.